FPMU.fr est fier de soutenir Vue du Banc. Parce que pour bien parier, il faut bien comprendre le jeu.
Salut à tous et bienvenue dans le 10e épisode de la 5e saison de Vue du Banc. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un homme en particulier et de ses 10 ans en Ligue des Champions, puisque ça fait désormais 10 ans que Pep Guardiola a découvert cette compétition, d'abord avec le Barça, ensuite avec le Bayern, puis avec Manchester City. Aujourd'hui, on se retrouve avec Christophe Kuchli. Salut Christophe.
Bonjour Raphaël.
Et non pas Florent, puisqu'après un petit passage dans la capitale, il est reparti du côté de Bordeaux, chez lui. On l'a d'ailleurs vu, enfin pas toi Christophe, parce que tu n'étais pas parmi nous, mais je l'ai croisé ce week-end. On parle de Guardiola aujourd'hui, Christophe, pourquoi ? Parce que l'actualité, le week-end de football n'a pas été incroyable. Alors je sais que toi t'as vu le Barça-Séville, qu'est-ce que t'as vu d'autre ce week-end ?
J'ai vu Chelsea-Manchester.
D'accord, donc tu t'es pas forcément régalé tout le temps. On parlera de ces matchs-là et de ces équipes-là peut-être jeudi, après la Ligue des Champions, notamment pour le Barça et pour Manchester. Mais aujourd'hui, on va parler d'un truc un peu plus historique. Ça fait 10 ans que Pep Guardiola a découvert la Ligue des Champions, d'abord avec le Barça. Et on a décidé de découper un peu cette épopée en trois actes, Christophe. La première, évidemment, le premier acte avec le Barça, 4 ans au Barça, 4 saisons. Ensuite, on parlera de ce qui s'est passé au Bayern lors de 3 saisons, et puis de ce qui se passe aujourd'hui à City, 2 saisons plus compliquées. Si on se penche sur le premier acte, sur ces 4 saisons passées au Barça, c'est ça, avec deux victoires en Ligue des Champions et deux demi-finales perdues. Qu'est-ce que tu retiens ? Parce que c'était à une époque où on était un peu, toi t'es un peu plus âgé, mais en partie dans notre adolescence. Qu'est-ce que t'as retenu de cette période de suprématie un peu du Barça de Guardiola entre 2008 et 2012 ?
Sympa en tout cas ce plus âgé, alors qu'on doit avoir 2 ans et demi d'écart.
Mais... Non, attends, on a 3 ans je crois, non ?
C'est vrai que ça change tout. Alors,
oui.
qu'est-ce que je retiens de cette période ? Déjà que c'est le fait qu'il gagne sur la première saison de coaching en première division, parce qu'il coach avant quand même. Il coach la réserve avec Busquets, Pedro, etc., qui fait monter en équipe première ensuite quand il prend la suite de Rijkaard. Mais oui, donc ce que je retiens, c'est qu'il gagne la première fois où il est engagé en Ligue des Champions, une victoire un peu au forceps. Si tu prends la demi-finale face à Chelsea, mais qui légitime un petit peu sa façon de faire, parce que je pense que si il se contente entre guillemets de juste gagner le championnat, t'as pas forcément le côté révolutionnaire de ses idées qui pourrait infuser, qui pourrait ensuite être repris par d'autres. Et je pense que ça a beaucoup contribué au fait que ça soit un personnage assez vite mythifié. Alors après, t'as toujours la réécriture un petit peu de l'histoire en disant oui, il avait une super équipe. Alors effectivement, il avait une super équipe, mais sous Rijkaard, un, il jouait pas comme ça. Deuxièmement, Iniesta n'avait par exemple pas ce rôle-là. Faut se souvenir quand même que Iniesta était très longtemps un joueur de rotation ou qui était de temps en temps, enfin qui était titulaire peut-être un match sur deux ou autre, mais qui était en tout cas pas un taulier de l'équipe comme pouvait l'être Xavi.
Et lors de la finale 2006 de Ligue des Champions, 2 ans avant Guardiola arrive, ni Xavi ni Iniesta ne sont titulaires. Donc c'était un milieu avec Van Bommel, Deco et Edmilson, il me semble, en tant que numéro 6. Donc t'avais le fait que la Masia ait produit une génération incroyable, c'est pas forcément vu toujours avant que Guardiola arrive.
Ouais, c'est ça. Donc bien sûr, il en fait monter certains de l'équipe réserve, où tu peux te dire effectivement, est-ce que s'il avait pas été là... Ces joueurs-là auraient-ils percé, par exemple, un Busquets, comme est-ce que Guardiola, en tant que joueur, aurait percé sans Cruyff ? C'est pas sûr, mais en tout cas, c'est vraiment le côté victorieux que je retiens, parce que le style, je pense qu'il l'aurait toujours eu. Mais si t'es éliminé en demi-finale et que l'année suivante, tu gagnes pas non plus, est-ce que les gens vont essayer de copier ton modèle ou pas avec des joueurs bien inférieurs ? Ça, j'en suis pas forcément persuadé.
Puis la nouveauté aussi, parce que maintenant on est dans un football où il y a 3-4 super puissances qui chaque année, le minimum de leur objectif c'est d'arriver en demi-finale de Ligue des Champions. À l'époque c'était pas du tout le cas. Il faut se souvenir que les équipes anglaises marchaient un peu sur l'eau, mais le Real, le Barça, le Bayern n'étaient pas toujours au rendez-vous en fin de compétition. Et j'ai envie de dire que Guardiola, un peu comme Mourinho avant à Chelsea, a changé cette époque-là, et ils ont été les premiers en fait à retransformer ces équipes-là en équipe ultra dominatrice, où tu les voyais toujours dans le dernier carré. Et ça, c'est sur ces 4 années, quand il fait 2 victoires en finale et 2 demi-finales, c'est aussi le début de ça, où maintenant l'exigence pour ces équipes-là a changé aussi à travers ces deux coachs-là, et notamment Guardiola.
Mais c'est vrai que même Mourinho, quand Mourinho arrive au Real, le Real est... Enfin, il faut se souvenir quand même des Real Lyon, etc., où c'était une grosse équipe, mais que tu pouvais battre, quoi. Alors que sur cette période-là, donc tournant... fin des années 2000, début des années 2010, on bascule dans ce qu'on connaît maintenant, qui est forcément lié à la répartition des richesses, etc., ou à l'augmentation des revenus, mais qui est aussi lié au fait qu'on a des entraîneurs qui sont capables de vraiment dominer leur sujet et qui ne ratent jamais une double confrontation. Ou alors face à une autre grosse équipe. Mais même le Barça, qui à l'époque avait quand même souvent des difficultés sur les matchs à l'extérieur où ça faisait. Tu pouvais faire 0-0 ou 1-1, t'arrivais au match retour et tu prenais 4 ou 5-0. Donc c'est vrai que ça a été le basculement. Et c'est ce qu'on a vu aussi peu après Guardiola, Tito. On rebascule sur un Barça qui peut sortir assez régulièrement en quart de finale, alors qu'avant, ils font une série assez dingue de présence en demi-finale.
Ouais, bah parlons-en justement de ce parcours, la première saison 2008-2009. Alors il y a la phase de poule qui survole pas, ils finissent à 13 points devant le Sporting, mais ils sont déjà dominateurs et surtout ils marquent 18 buts, et c'est ça la nouveauté, ces équipes qui arrivent à mettre des cartons régulièrement. Huitième de finale, c'est cette victoire 5-2 contre Lyon au match retour, et puis il y a le 4-0 contre le Bayern de Ribéry déjà à l'époque, qui marque un peu ce tournant. Et déjà à l'époque, je me souviens, ça, je t'avais envoyé récemment un extrait de l'émission On va se gêner de Ruquier, où il y a Benichou qui parle du Barça. C'était incroyable, mais il disait à l'époque déjà, ouais, c'est peut-être la meilleure équipe du monde, alors que pendant 2-3 ans, le Barça avait disparu entre 2007-2008, où ils étaient rattrapés par le Real à chaque fois en championnat. Là, c'est la première grosse démonstration, c'est contre le Bayern. Et ça lance un peu ce truc où le Barça devient un ogre que tous les gros savent pas vraiment aborder.
Ouais, mais en plus, ce qu'il y a, c'est sur ce 4-0, il est d'autant plus fort, même si à l'échelle du Barça et de Guardiola, c'est pas forcément un match marquant, c'est qu'il y a 4-0 à la pause. Donc, c'est pouvoir à l'époque être capable de mettre 4-0 à quand même un Bayern qui avait une bonne équipe. Alors, c'était pas le super Bayern que tu retrouves maintenant, où il y a sur 2013, 2014, etc. Mais c'était quand même une grosse équipe. Et c'est vrai que c'est cette puissance de feu du offensif du Barça et surtout la maîtrise au milieu de terrain qui ressortait. Alors, maintenant, ça paraît un peu évident de voir que les équipes de Guardiola ou même le Barça arrivent quand même à gérer la plupart des matchs, et surtout les temps forts, temps faibles, à savoir que ça soit et les temps forts et les temps faibles, ils se passent quasiment tous avec le ballon, et que tu gères toi-même le rythme et le tempo du match, et qu'il n'y a quasiment jamais de moment où l'adversaire peut prendre le contrôle du ballon et t'imposer son style. Là, en rétablissant véritablement un pressing très haut que Rijkaard faisait de manière intermittente, les 7 secondes pour récupérer le ballon, etc., en gros, t'as quasiment tout le temps le ballon, et au pire, bah, si ton pressing passe pas, tu concèdes une occasion, mais comment dire, la phase est très rapide, c'est-à-dire que ton pressing va être cassé. Soit tu concèdes une occasion, soit tu la récupères 5 secondes après. Mais en tout cas, tout est fait pour que si tu que la phase, on va dire que la phase de construction de l'adversaire soit très courte. Toi, c'est soit attaque rapide, soit tu récupères toi-même le ballon. Et du coup, ça donnera assez rapidement des matchs à 60-65% de possession, même face à des gros adversaires qui n'ont pas forcément l'habitude d'être malmenés comme ça. Et c'est ça, les phases préparatoires et le redoublement de passes qui vont ensuite contribuer aussi au succès d'Espagne sur la scène internationale.
Ouais, et la seule équipe qui arrive à embêter vraiment le Barça de Guardiola cette saison-là, c'est le Chelsea de Gussie Dink. Il me semble qu'il remplace un. À l'époque, il doit remplacer. Je crois que c'est Luis Felipe.
Avram Grant, non?
Avram Grant, ouais, peut-être, qui fait finale 2008 et qui après arrive plus à tenir le vestiaire. Il y a eu tellement de changements à Chelsea à l'époque que j'en oublie pardon, la chronologie. Mais il y a ce match nul 0-0 à l'aller au Camp Nou, et puis ce retour, un partout, avec le but d'Iniesta à la dernière seconde. Et c'est paradoxalement un match qui lance à la fois les succès de Guardiola et cette domination de l'Europe, et sans doute un de ses moins réussis.
Alors c'était Scolari qui avait remplacé, j'ai
Ah
totalement
bah tu
zappé
vois, c'est
ce
ça,
passage de...
j'allais dire. Ouais.
Ouais, c'est vrai que ce match-là, pour moi, c'est vraiment le plus difficile du Barça, parce que, alors on doit être en avril, je crois, quelque chose comme ça, de cette saison, de la première saison de Guardiola au Barça, donc du coup, tu peux pas dire, tout le monde, enfin, c'est pas comme si tu avais 5 ans d'observation de ces équipes derrière toi et que tu savais exactement ce qu'il allait faire, mais n'empêche que sur 6-7 mois de coaching, il avait déjà réussi à imposer sa patte et que Hiddink est quand même très fort pour la lecture des adversaires et on va dire l'empêcher de jouer, pas forcément imposer son style, mais opposer un calque qui rend ton modèle à toi très compliqué à imposer. Et c'est vrai que sur ce match-là, mais si tu prends tous les matchs de Guardiola en Ligue des Champions, même avec ses équipes suivantes, j'ai rarement vu, peut-être jamais, le Barça aussi impuissant. C'est-à-dire que il était coincé sur les côtés, tu pouvais pas faire de centre parce que, enfin, tu peux en faire, mais t'avais pas de vrai joueur de tête, etc. Et t'étais face à une équipe qui avait beaucoup de taille, beaucoup de physique. Et en fait, on va dire que Chelsea réussissait à suffisamment densifier le milieu pour pas se faire percer là-dessus et ouvrait très clairement les passes vers les latéraux, vers les ailiers. Sauf qu'une fois que t'étais sur le côté, bah, t'arrivais plus jamais à retrouver des appuis dans l'axe et t'étais un peu impuissant. Et le seul but du Barça est sur l'une des rares occasions de cette demi-finale aller-retour. C'est une frappe lointaine d'Iniesta, mais sur un dégagement raté des siens. Et c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est que c'est doublement improbable. Hein, t'as la frappe lointaine d'Iniesta qui est presque un aveu d'impuissance dans la mesure où hein, Iniesta n'a pas forcément une grosse frappe. Et en plus, à l'époque, t'avais vraiment pas l'idée de frapper de loin, encore plus à la dernière seconde. Et puis ça vient, mais sur un enchaînement d'erreurs ou de semi-erreurs défensives de Chelsea, alors que jusque-là, tous les ballons qui traînaient étaient dégagés. Et c'est l'une des. Alors là, ça a fonctionné, le Barça s'est qualifié. Mais alors, ok, c'était le début du projet, donc peut-être que un Barça année 2, année 3 hein, aurait pu faire un truc encore plus abouti qui aurait réussi à percer le coffre-fort adverse. Mais là, Hiddink donnait une manière de faire qui, sans forcément maximiser les chances de son équipe pour profiter des failles que créait le Barça à jouer très très haut, c'était simplement coffre-fort et puis bon courage pour nous marquer un but. Nous, si on en met un, on a de bonnes chances de se qualifier.
Ouais, ce coup de chance un peu de Guardiola, il va le payer sur deux des trois saisons suivantes. Alors la finale 2009 est largement maîtrisée contre Manchester avec but d'Eto'o et de Messi. Puis 2010, t'as un peu le modèle Mourinho qui débarque à l'Inter, la première confrontation entre les deux en Ligue des Champions. Et ce match aller qui reste historique avec la victoire 3 à l'Inter, mais surtout ce match retour dont on a plus parlé peut-être, avec cette expulsion de... Je sais plus qui est expulsé,
Thiago
peut-être
Motta.
Thiago Motta, c'est ça. Et ce mur qui est construit par Mourinho et qui va être imité par pas mal d'entraîneurs par la suite et pas mal embêté de Barça. Même si on fait le bilan de 2008 à 2012, les échecs contre l'Inter en 2010 et plus tard contre Chelsea en 2012, Guardiola peut pas vraiment s'en vouloir sur pas mal de ces situations parce qu'il y a un nombre d'occasions manquées et une domination en termes de tirs qui aujourd'hui, si à l'époque on avait les expected goals, ça aurait été, enfin tout le monde se serait demandé comment étaient passées ces équipes-là.
Ouais, bah moi, l'un de mes grandes marottes, c'est de dire que la victoire de l'Inter, alors que c'est un match, enfin, la qualification de l'Inter, c'est un aller-retour ultra symbolique. Et quelque part, c'est bien aussi pour le foot que l'Inter soit passé sur ce match-là, parce que du coup, ça t'offrait un peu un contre-modèle, etc. Mais mon idée, c'est vraiment, on parlait du match de Chelsea avant, que Chelsea avait bien mieux affronté le Barça que l'Inter, et que l'Inter passe avec une bonne dose de chance. Alors ça n'enlève rien à ce qui a été fait, bien sûr, hein, mais disons, je trouvais beaucoup plus reproductible le modèle de Chelsea de Hiddink que celui de l'Inter. Alors le 3-1 de l'aller, t'as quand même une volonté de déstabiliser le Barça que n'avait pas Chelsea. Donc ça c'est louable. Après les buts, enfin il y a tout le contexte. Je sais que sur toute la frange barcelonaise, hein, t'as le fait que t'aies un ou deux buts qui soient un peu suspicieux au niveau de l'arbitrage et que t'aies eu aussi le fait de voyager. Je crois que c'est en bus parce que t'as le volcan en Islande qui t'empêche de prendre l'avion, etc. Donc les joueurs fatigués, machin. Mais au-delà de ce 3-1 à l'aller, c'est surtout le match retour où finalement tu gagnes quand même ce match. Tu le gagnes 1-0. Alors l'Inter est à 10, donc c'est difficile de savoir ce que l'Inter aurait fait à 11. Est-ce que le bus aurait été garé de cette manière-là aussi? Ça partait quand même un peu comme ça, mais l'expulsion change encore plus et fait que t'as Eto'o latéral, etc. On arrive vraiment dans la caricature. Mais pour moi, t'as laissé tellement d'occasions à Barcelone, et bon, au-delà du fait que tu perds le match, t'as un but qui est refusé à Boyan, etc. T'as quand même pas mal d'occasions, même si c'est pas non plus le déluge comme t'auras dans d'autres matchs du Barça. Et c'est vrai que c'était bien défendu, mais pour moi, tu subissais trop, t'étais vraiment pas maître de ton destin, tu laissais quand même pas mal d'occasions, et sans jamais t'en procurer une ou quasiment pas. Et c'est vrai que pour moi, c'est plus un testament sur ce que tu peux faire avec un peu de chance et surtout la solidarité, le fait vraiment que tout le monde, dès que tu as une balle qui traîne, tu tends la jambe, tu te bats sur chaque duel, tu fais des petits tirages de maillot dans la surface qui se voit pas trop, etc. Un mélange de vis, d'expérience, de combativité qui fait que tu peux préserver un avantage sur un aller-retour. Mais tactiquement, J'ai rien vu, notamment sur le retour, de vraiment exceptionnel de la part de Mourinho. Simplement le fait de dire, bah, si nous on l'a fait, ça peut être une façon de faire, parce que si on essaye de se battre avec les mêmes armes, on risque d'être battu parce que la puissance offensive adverse est bien supérieure.
Ouais, quelque part, c'était l'acceptation aussi de la supériorité dans le jeu du Barça, où à l'époque, tout le monde, enfin, il y avait d'énormes débats sur comment il faut affronter le Barça, est-ce qu'il faut reculer, est-ce qu'il faut aller les presser. Et puis, t'as l'aboutissement en 2011, où le Barça est injouable avec la transformation complète du Barça, de celui de Messi, Eto'o et Henry, avec des ailiers un peu stars, un peu vedettes, à cette fois une façon de jouer, un style où Messi est l'unique star quasiment en termes de production offensive. Et puis t'avais Pedro et Villa qui existent pour lui donner de l'espace et à la fois profiter des espaces que lui crée avec des appels en diagonale dans le dos de la défense. Et cette finale 2011, si on fait le bilan des 4 saisons de Ligue des Champions de Guardiola et même des 4 saisons au Barça, c'est peut-être la meilleure et en tout cas la plus fidèle à ce que lui voulait être. Celle de 2009 est très bonne, mais elle dépend plus aussi de la qualité des joueurs individuels et des joueurs qui ne sortent pas de l'école de jeu que lui défend. 2011 en revanche, c'est historique parce que c'est le style Barça. Triomphant et impressionnant tous les clubs, et notamment cette finale où Ferguson dit qu'il avait jamais pris une telle raclée, notamment dans le contrôle d'un match.
Ouais, et puis je trouve que le 11 de Manchester sur cette finale est supérieur à celui de 2009. Pour le coup, c'était une vraie bonne équipe. Et enfin, tu as étudié ce match-là, notamment pour Les entraîneurs révolutionnaires du foot, le deuxième bouquin où tu as écrit une bonne partie de du passage sur Guardiola. Et c'est vrai que je crois que tu fais l'intro en parlant justement de cette phrase de cette phrase de Ferguson. Et si tu regardes ce match-là, il n'y a pas. En fait, ça fait partie de ces matchs où tu peux le regarder, enfin, tu peux le rejouer 10 fois. Je pense que 10 fois, t'as minimum 3-1, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une telle maîtrise de tous les compartiments du jeu de Barcelone. Alors, ok, en face, t'as la qualité individuelle qui fait que tu peux. Bon, là, il y a un but de Rooney. Tu
Et à
peux.
l'époque, t'as un Rooney qu'on a oublié un peu parce qu'aujourd'hui il est cramé, mais qui était un joueur exceptionnel, quoi. Top 5, top 6 mondial.
Ah ouais, t'avais vraiment. Enfin, tu vois, t'avais aussi le grand Carrick, qui était quand même ce joueur très soyeux. Giggs au milieu, et puis Rooney Hernandez. En gros, t'avais la combinaison de Rooney qui savait un peu tout faire et Chicharito qui est toujours là à traîner. Enfin, t'avais quand même une vraie bonne équipe, mais en face, c'est quasiment ce que tu peux faire de mieux. Je veux dire, la seule variable, c'est le fait, et encore, c'est négligeable parce que tu défends pas tellement, mais c'est Mascherano qui est titularisé en défense centrale à la place de Puyol, alors qu'à l'époque, je suis pas sûr que Puyol était pas meilleur que Mascherano, mais c'est discutable. Mais je veux dire, sinon, c'est quasiment les All-Star Barça avec tout le monde qui était à son pic de carrière. Je veux dire, Pedro, je pense que c'est sa meilleure période. Messi, c'est bon, la meilleure période de Messi, c'est un peu difficile à définir, mais en tout cas, c'était vraiment son grand moment en tant que faux numéro 9, etc., en tant que star de l'équipe.
En termes d'explosivité et de ce qu'il pouvait faire tout seul balle au pied, il y a la demi contre le Real, je crois, où Mourinho lui colle Pepe au marquage et ça explose complètement parce que Messi reprend le ballon très bas, décroche et traverse quasiment le milieu du Real à chaque fois. Donc c'est un truc qu'il peut plus forcément faire aujourd'hui à chaque fois qu'il prend le ballon.
Et c'était intéressant à étudier parce que je crois que c'est cette année-là où il y a les 4 classicos en un mois. Et
Ouais.
ça aussi, on en parle dans le bouquin. J'ai plus. Enfin, j'avais un peu fait ce passage-là. Mourinho faisait déjà ce qu'il fait maintenant souvent face aux gros avec Manchester, à savoir le marquage individuel
Sur le meilleur joueur adverse, ouais.
sur le meilleur joueur, voire les 2 meilleurs joueurs. Et là, c'est vrai que c'était Pepe qui, un coup, faisait Messi au marquage individuel. Un coup fait Xavi, ça c'était assez audacieux. Donc t'as un match où quand Xavi décroche limite à hauteur de Busquets, bah, t'as Pepe qui est le premier sur lui. Donc Pepe est quasiment le joueur le plus avancé sur certaines phases de entre guillemets pressing du Real. Donc c'était assez amusant. Mais c'est vrai que t'étais obligé de choisir quand même une espèce de contre-modèle si tu voulais affronter Barcelone. Mais même en faisant ça, tu pouvais rien faire. Alors Villa, c'est peut-être pas sa meilleure période. Je pense qu'il est il est peut-être plus fort à l'époque où il est à Valence, mais n'empêche qu'il arrive vraiment bien à épouser ce rôle d'ailier, qui est ailier attaquant, attaquant de couloir, enfin comme tu veux, mais qui est pas forcément naturel pour lui. Mais avec la manière dont Messi décroche et dont lui est intelligent pour lire le jeu, etc., il arrive parfaitement à se fondre là-dedans. Et pour moi, encore mieux qu'Henry, par exemple, alors que ce sont pas forcément leurs postes naturels et qui sont plutôt sur la deuxième partie de leur carrière.
Mais d'ailleurs, petit aparté sur David Villa, c'est un mec qui a connu son pic, je dirais, entre 2008 et 2010, à peu près, quand ils font Euro 2008, Coupe du Monde 2010, où je crois qu'il finit meilleur buteur Euro 2008 et pas loin la Coupe du Monde 2010. Il doit être derrière Müller, mais je crois qu'il finit à 4 ou 5 buts. Et ce qui est marrant, c'est que 4 ans plus tard, alors qu'on l'a un peu oublié, il fait finale de Ligue des Champions avec l'Atlético. Oui, j'ai l'impression que, enfin, tout le monde a oublié qu'il jouait avec Diego Costa devant et que c'était qu'il était ultra important pour l'Atlético. Et tu le vois encore aujourd'hui, il a des stats assez incroyables aux États-Unis. Alors certes, c'est un championnat moins fort, mais tu sais, il fait partie de ces joueurs qui aujourd'hui, s'ils étaient au même niveau que leur pick, feraient pas partie des 3-4 meilleurs joueurs du monde. Et du coup, sont un peu zappés dans ces conversations-là. Alors qu'à l'époque, on était plus conscient de cette, je sais pas, de la qualité de ces joueurs-là, tu vois. Un peu comme un Torres à la fin des années 2000, où j'ai l'impression que le fait que maintenant des extraterrestres comme Ronaldo et Messi soient devenus des stars et aient pris la place du Ballon d'Or à chaque fois, ça relègue un peu loin ces bons joueurs, ces grands joueurs, qui sont pas des très très grands joueurs non plus, alors que c'était une base du Barça à l'époque.
Ouais, et puis en plus, ce qu'il y a, c'est qu'il fait quand même toute une partie de sa carrière à Valence. Et à cette époque-là, Valence était beaucoup plus proche que ne l'est, Valence, Séville, etc. Enfin, ces équipes qui terminent entre 3, 5, 6 de Liga, t'avais moins d'écart avec les deux gros. Donc, c'est-à-dire que tu pouvais, si t'étais un super joueur de Valence, au final, tu pouvais quand même faire partie des 5-6 meilleurs attaquants du monde, alors que maintenant, des super attaquants, enfin, tu prends Alcacer à Dortmund, par exemple, s'il tient sur ce rythme-là, tu vas quand même te dire, oui, mais bon, c'est Dortmund, quoi. En
Ouais,
gros,
c'est
il faut
ça.
être dans l'un des 4-5 meilleurs clubs du monde pour être véritablement considéré, sachant qu'en plus, Benzema l'est pas forcément. Donc, en gros, il faut être Lewandowski, il faut être Messi, Ronaldo. Enfin, tu vois, tu as quand même assez vite fait le tour des attaquants de ces clubs-là. Je veux dire, même à Mandzukic, tu ne seras pas forcément ultra considéré. Alors qu'à l'époque, tu avais quand même une certaine densité. Et si tu remontes même les années avant, tu vois, l'époque Mackay Tristan, ils étaient au Deportivo La Corogne, tu pensais que c'était des super joueurs. Alors que maintenant, les attaquants de ces clubs-là de second rang, il y a tellement d'écart avec les grands clubs, qu'au final tu vas presque plus considérer un super sub d'un très grand club plutôt qu'un titulaire, un Carlos Bacca qui mettait ses 20 buts à Séville, quoi.
C'est l'histoire du Barça de Guardiola aussi, puisque 2011-2012, la dernière de Guardiola au Barça, c'est le début de la concentration des joueurs aussi dans les grosses équipes, avec l'arrivée de Fabregas, un passage à une défense à 3, où ça pousse encore plus le modèle voulu par Cruyff, et enfin, Cruyff à l'époque aimait beaucoup les défenses à 3, avec un losange devant et une espèce d'attaque à 3 assez libre, où Laudrup était un peu l'électron libre qui pouvait un peu tout faire sur le terrain. Là, le 2011-2012, c'est vraiment ça, ça donne un super match contre Santos en Coupe du Monde des clubs, assez historique. Ça donne un super match contre Leverkusen en 8e où je crois que Messi met un quintuplé et ça gagne 7-1. Et puis en demi-finale, il y a cet échec contre Chelsea qui est peut-être encore plus frustrant que contre l'Inter parce qu'à la différence du match de la double confrontation contre l'Inter en 2010, il n'y a pas un super match aller de l'adversaire. Chelsea gagne 1-0 mais sans être brillant. Et puis au match retour, c'est Ramirez et Lampard qui font gagner Chelsea. Ramirez qui depuis a quasiment disparu. Et c'est un peu le retour du karma de 2009 où Chelsea n'avait pas beaucoup eu de chance contre le Barça.
Ouais, c'est époque où Ramirez c'était un joueur incroyable.
Ouais,
Vraiment,
ouais, ouais.
pour moi, il gagne quasiment ce match à lui tout seul. Alors, ça termine à 2-2, mais le dernier but est anecdotique. C'est Torres qui marque
Sur
sur une
un
espèce
contre,
de
ouais.
contre-attaque, mais parce qu'il n'y a plus personne, il n'y a plus personne en défense les dernières secondes. Mais c'est vrai que cette rencontre-là, alors c'est amusant, je regardais la composition de départ. T'as Cuenca qui est titulaire sur ce match-là. C'est aussi. On va dire toute cette seconde partie de Guardiola au Barça où, ok, t'as vraiment énormément de grands joueurs et sur le banc, là, sur ce match-là, t'as Daniel Alves, t'as Thiago Alcantara, Seydou Keita, qui était quand même un très bon joueur à l'époque, Pedro, Adriano, mais t'avais aussi ces ailiers très moyens qui réussissaient à briller. Donc là, t'as Cuenca qui est remplacé par Tello, par exemple.
Tu peux citer Refren qui marque dans le Classico de 2010, a gagné 5-0.
Voilà, c'est ça. Et c'était des joueurs soit formés au club, soit achetés par la réserve, comme Nolito, qui ensuite essayait de faire leur trou en équipe première. Et c'est vrai qu'en fait, la base était tellement forte que tu pouvais te permettre d'avoir un joueur en plus ailier. Je pense que dans le foot actuel, c'est vraiment le poste où tu peux plus être moyen et te planquer. Et si tu as juste une ou deux qualités fortes, tu peux t'en sortir dans des équipes comme ça. Mais pour en revenir à ce match-là, c'est vrai que le côté box-to-box de Ramirez fait très mal, mais t'as le coup bête de savoir, enfin l'équipe adverse est simplement plus réaliste que toi, et c'est alors ça peut être l'histoire d'un match, c'est aussi un peu l'histoire de Chelsea sur cette Ligue des Champions qui est gagnée, on sait pas trop comment, mais qui est gagnée face au Bayern au tir au but en
Chelsea
finale.
de Di Matteo après que Villas-Boas soit viré après le match aller contre Naples de Mazzarri à l'époque. C'est marrant
Mais
parce que
oui.
En fait, à quelques jours près, ça se trouve, Naples fait un parcours exceptionnel en Ligue des Champions. Parce que c'est le Naples de Cavani, de Lavezzi, de Hamsik, qui gagne 3-1 à l'aller, qui se fait battre 4-1 par Chelsea au retour. Et c'est là que Di Matteo construit un peu sa légende, et que depuis, elle a à peu près la même carrière que Ramirez depuis, quoi.
Ouais, c'est vrai, mais tu vois, le 3-1 de Naples, je me souviens d'une balle de Maggio, je crois, qui est sauvée sur la ligne à l'époque où Maggio, à droite, était assez énorme. Si ça fait 4-1 à l'aller, je pense quand même, avec le changement de coach, tu ne te qualifies pas. Mais voilà, là, on en a souvent parlé, notamment avec Florent, qui donc n'est pas disponible, il est dans le train sur le retour, mais le 3-4-3, c'est un peu un quitte ou double. Et pour moi, alors, l'idée était intéressante. À la fois, ça lui permet de marquer son héritage avec Cruyff. Et puis, lui, ce qu'il dit aussi, c'est un peu.
Il faut
Enfin, tu vois.
renouveler,
Ouais,
faut
c'est
que tu
ça,
recrées
sortir les
quelque
joueurs du
chose pour. Il
confort.
y a un truc que j'écoutais le podcast de Bill Simmons récemment qui parlait des Warriors. Alors Bill Simmons, il peut dire autant des conneries que des trucs géniaux. Et il disait que les Warriors avec DeMarcus Cousins avaient besoin d'une, tu sais, en anglais on dit narrative, mais d'une nouvelle histoire en fait pour qu'il y ait un truc genre ah cette année on joue pour lui, ou on joue pour ça, ou on joue pour telle histoire. Et c'est vrai que le Barça quand tu fais 2009 victoire, 2011 victoire, qu'est-ce qui en 2012 va t'amener à faire quelque chose d'aussi intense et aussi sérieux, tu vois. Et le fait de recruter Fabregas, de changer le système, ça a fait partie de ça. Ça n'a pas été payé, mais je pense que c'est un besoin qu'avait évoqué aussi Simeone quand il disait qu'il fallait changer de joueur souvent parce que sinon ça s'endormait. Et c'est ce que dit Guardiola souvent, où il dit qu'après 3 ans, il n'arrive plus à motiver les joueurs de toute façon.
Mais tu vois, est-ce qu'on peut opposer, et c'est du foot fiction, mais c'est est-ce que tu as besoin de changer à ce point-là et de foutre Fabregas en pointe, etc., une équipe qui fonctionne bien de la sorte? C'est-à-dire, est-ce que, mais peut-être qu'il a bien faim, enfin, tu vois, c'est facile de dire après, mais est-ce qu'en plus il n'est pas champion cette année-là, donc c'est vraiment une année très moyenne, mais est-ce que tu as besoin de changer à ce point-là, et est-ce que ton modèle de départ n'est pas tellement bon que finalement, même avec moins de motivation, ça peut quand même fonctionner. La question s'entend, et je pense que c'est aussi l'une des choses qu'il faut dire quand tu parles de Guardiola, c'est que parfois il réfléchit tellement que tu peux te demander s'il réfléchit pas trop. C'est-à-dire quand ça fonctionne, tu dis oui, bon c'est nickel, et limite tu peux dire ouais c'est génial, et parfois tu peux dire est-ce que finalement il va pas trop loin? Est-ce que simplement en mettant pas les joueurs dans la meilleure condition, mais comme par exemple pouvait le faire Zidane, où tu avais une réflexion, mais c'était pas non plus. Il avait suffisamment confiance de ses individualités pour les mettre dans les meilleures conditions et pour se dire, bah, au talent, on va se qualifier, plutôt que de vouloir trop en faire, comme par exemple ce que pouvait faire Benitez avant lui. Est-ce que parfois ça va pas trop loin? Et est-ce que l'Espagne gagne aussi avec Fabregas en faux numéro 9, mais là pareil, tu as aussi des matchs très compliqués où si tu es un peu moins réaliste et si l'adversaire a un peu
Bah,
plus.
la
Ça se passe très
demi-finale de
mal.
l'Euro 2012 contre le Portugal est dégueulasse, hein.
Bah oui, c'est ça, c'est exactement ce match-là que j'avais en tête. Alors, tu gagnes, donc c'est sûr que les vainqueurs ont toujours raison, mais si tu regardes le cheminement, tu dis est-ce que l'arrivée, enfin le retour de Fabregas au Barça a pas fait perdre en partie l'identité de cette équipe, parce que tu as beaucoup plus de matchs très moyens pendant la saison que tu en as sur les précédents. Alors, quand ça fonctionne, quand ça clip, c'est nickel parce que t'as cette espèce de football avec des milieux de terrain partout et du coup t'as des combinaisons tout le temps, mais sinon tu perdais vraiment en présence dans la surface, en percussion, ce que tu gagnais en contrôle alors que t'avais déjà énormément de contrôle sur tout le terrain avec les Xavi, Iniesta, etc.
Et ce qui est marrant, c'est que c'est la saison où vraiment le Barça et le Real se poussent vers le haut, mais d'une manière assez incroyable. Parce que je crois que le Real de Mourinho finit à 100 points ou 101 points, avec un record de buts marqués. Il mettait des 7-0 tous les week-ends. Et les deux sont éliminés en demi-finale par le Bayern et Chelsea, qui étaient des équipes à l'époque bien moins fortes. Hein, parce que c'est pas encore le Bayern de 2013. Je pense que c'est bien moins fort que le Bayern de 2013 d'ailleurs. Celui de 2012 était moins impressionnant. Et aucun des deux ne va en finale, et finalement le Barça s'arrête là, parce que le Barça de Guardiola s'arrête là, Guardiola n'en peut plus, part faire une année sabbatique, et revient en 2013, et c'est ça notre deuxième acte, c'est les 3 saisons au Bayern. Et ce que tu as dit notamment sur le fait de beaucoup réfléchir et de modifier pas mal de choses, et de parfois de mettre les joueurs dans des positions nouvelles ou inédites, ou qui peuvent paraître à contre-emploi, c'est un parfait résumé de ce qu'il a fait au Bayern, parce que quand il est arrivé, il a quasiment tout changé par rapport à ce que faisait Inca juste quelques mois auparavant.
Ouais, c'est là-dessus qu'il y a une. Alors, c'est intéressant d'étudier ce qu'il a fait au Bayern quand tu vois ce qui a été fait ensuite. C'est-à-dire que tu as quand même eu beaucoup de critiques à la fois en interne et en externe sur. Je me souviens là pour le coup, autant les débuts de Guardiola au Barça, on n'était pas forcément sur Twitter, etc. Enfin, c'était limite pour nous, ça paraît ancien, mais là, on était déjà on était déjà à l'ère où on commençait à voir un petit peu les expected goals, etc. Donc c'est vraiment un truc quand même assez moderne. Je me souviens que tous les samedis après-midi, on regardait ces matchs-là. Et tu avais quand même beaucoup de résistance sur, en gros, Guardiola veut hispaniser une équipe qui représente quand même la force et la tradition germanique. Et du coup, c'est pas forcément bien. Et même quand ça gagnait, t'avais quand même Bild qui était pas content, etc. Parfois les dirigeants, dès qu'un match lui gagnait que 1-0, ça n'allait pas parce qu'en gros tu faisais trop de passes.
Ce qui était fou, c'est qu'en fait, il veut transformer un Bayern qui vient de battre le Barça et l'héritage qu'il a laissé au Barça. C'est aussi pour ça, je pense, que c'est compliqué à avaler pour les Allemands au départ. C'est que tu viens de mettre 7-0 au Barça sur deux rencontres en Ligue des Champions, et que derrière, tu prends un coach qui dit, bah, on va jouer comme le Barça, ou en tout cas, on va avoir le ballon autant que le Barça. Parce que le jeu ne va pas être similaire, et c'est ça aussi qui est intéressant. Et c'est là qu'il y a une prise de conscience un peu mondiale sur le fait que Guardiola veut le ballon, certes. Mais ensuite, ce qu'il en fait, c'est complètement différent selon les joueurs qu'il a. Alors qu'on s'attendait, et même je rappelle que j'avais écrit un papier sur comment il va faire sans Messi pour jouer. Est-ce que Robben et Ribéry vont s'inclure un peu dans ce football où il faut des joueurs qui sont capables de jouer sans ballon et de se déplacer dans la profondeur et de libérer des espaces par l'intérieur du jeu. Et finalement, il fait tout l'inverse et il s'appuie sur ses meilleurs joueurs. Et c'est là que tu vois le pragmatisme de Guardiola à l'intérieur d'une idée de jeu très radicale.
Ouais, mais en fait, il y a deux choses intéressantes. La première, c'est donc au niveau de Guardiola, ce que tu disais, son adaptabilité, le fait que même si tu le caricatures, mais lui aussi fait rien pour ne pas être caricaturé sur son jeu, au final, c'est peut-être celui qui fait le plus évoluer sa manière de procéder pour justement déstabiliser l'adversaire tout en ayant le ballon. Et deuxièmement, c'est le côté réceptif de joueurs de ce niveau-là. C'est-à-dire que là, c'est où c'est intéressant, c'est que depuis, tu as quand même eu Ancelotti et Kovac, et tu vois que ça s'est beaucoup moins bien passé avec eux qu'avec Guardiola. Alors que ça ne veut pas dire que c'était toujours idyllique avec Guardiola. N'empêche que tu vois maintenant que s'ils avaient voulu dégager Guardiola comme ils ont dégagé Ancelotti, ils auraient pu le faire, ils ne l'ont pas fait. Donc c'est-à-dire, ok, ça boudait, mais parce que tu as plusieurs boudeurs historiques au sein du Bayern, notamment Ribéry, et que l'ambiance est toujours assez particulière. N'empêche qu'il a réussi quand même à être accepté des joueurs en mettant le milieu, etc. Et aussi, ce que tu vois, c'est que tu peux quand même radicalement changer le style d'une équipe et augmenter de 10 ou 15% sa possession d'une année sur l'autre quand tu es avec des joueurs comme ça, juste en leur disant de faire autrement. Tu vois, tu vas arranger, tu leur dis, bon, bah, maintenant on va faire du jeu de possession. Je pense que ça va être quand même assez compliqué. Là, mais on le voit même cette année avec Chelsea. Chelsea a les mêmes joueurs que l'an dernier avec Kanté. Et ça prend 8-10% de possession et ça joue de manière totalement différente, juste parce que le coach leur dit, bah, faites ça. Alors, ok, t'as un apprentissage, etc., dans l'animation. N'empêche qu'en quelques mois, quand t'as des joueurs qui sont formés à ce point-là, etc., et qu'en plus, bon, lui, il avait pris, enfin, il faisait en sorte d'aligner des 11 aussi qui pouvaient être dans cette idée de déjà au moins avoir une bonne maîtrise du jeu au milieu, mais tu peux être encore plus dominateur. Après, c'est sûr que sur la première saison, t'as aussi, un demi-problème avec Mandzukic. Où Guardiola est pas fan de la manière dont joue Mandzukic, mais il arrive. Enfin, des fois, il en a besoin parce que son jeu peut être trop stéréotypé, et du coup, il veut balancer plein de centres.
La première saison, c'était beaucoup de centres aériens et ça a changé par la suite avec pas mal de centres au sol, avec moins d'appui sur les latéraux et c'était vraiment des ailiers qui provoquaient et de la présence dans la surface, mais avec beaucoup plus de joueurs adaptés pour ça, et notamment l'arrivée de Lewandowski. C'est vrai que quand à l'époque où c'était Mandzukic, je me rappelle des premiers matchs qu'on regardait, on discutait à l'époque sur Facebook, tu disais, mais le Bayern, ils font que centrer, quoi. Et la stat de centre a baissé petit à petit d'une année à l'autre, et il a fini sur 15 ou 16 centres par saison, alors qu'aujourd'hui, c'est revenu à 26, quoi.
Ouais, c'est vrai qu'au tout début, en gros, ta maîtrise te permettait de créer d'énormes décalages. Sauf que ces décalages, c'était bah, du coup le latéral ou l'ailier a tout le temps de centrer. Et ensuite, c'est la tête de Mandzukic. Alors, ok, la phase préparatoire était suffisamment bossée pour que tu puisses avoir. Franchement, il y avait d'énormes espaces, même face à des équipes qui défendaient à 8, 9, 10. Mais n'empêche que si ça terminait toujours par un centre et tu te disais. Est-ce que le fait d'avoir Mandzukic, c'est une aide pour lui parce que du coup, ça lui permet de marquer des buts sur ces phases-là? Ou est-ce que c'est pas une espèce de poison indirect qui fait que bah, il est tellement fort que du coup tu vas faire ça, alors que de pas l'avoir, ça te forcerait à réfléchir autrement. Et du coup, en réfléchissant autrement, bah, tu trouverais un truc un peu plus viable que les centres aériens qui fonctionnent beaucoup, mais qui sont pas la manière dont envisage forcément Guardiola pour déstabiliser un adversaire.
Et la première saison de Guardiola au Bayern, c'est évidemment un titre en Bundesliga, mais un gros échec en Ligue des Champions. Peut-être son plus gros échec, ou en tout cas celui où il y a le moins de circonstances atténuantes, c'est la défaite sur les deux matchs contre le Real en demi-finale, 1-0 à l'aller, où je crois que c'est un but de Benzema, il me semble, dans mes souvenirs. Et le match retour 4-0,
Oui, c'est ça.
vrai déculotté, où le Bayern, dans un jeu où Guardiola modifie des choses et se dit contre ce Real-là, je vais devoir changer des choses, tombe complètement à la renverse et se fait dominer dans tous les compartiments du jeu par le Real, notamment sur des contre-attaques, où Ancelotti laisse Bale et libre, Bale et Ronaldo libre de ne pas défendre, et à chaque ballon récupéré, le Bayern prend des vagues. Et c'est à partir de ce moment-là aussi qu'il se dit, il faut que je me protège mieux mon équipe en possession du ballon et qu'il va faire revenir tout le temps les latéraux à l'intérieur, qu'il va mettre beaucoup de présence dans l'axe pour couper ces transitions-là. C'est une période où Guardiola apprend beaucoup parce que son jeu de possession et de position est encore moins maîtrisé lors de la première saison que lors de ses pires périodes au Barça.
Et c'est aussi la saison où je n'en démords pas, Di Maria était le meilleur joueur du monde et méritait d'être ballon d'or pour moi,
Non, mais c'est
même
pour ça que je
si.
voulais faire ce podcast aussi, c'est que tu vois, quand on parle un peu d'époques qui sont pas si lointaines, mais il y a 7 ans, Ramirez était un joueur incroyable. Il y a 4 ans, Di Maria fait une année 2014 où il fait finale de Coupe du Monde aussi avec l'Argentine. D'ailleurs, il est blessé pour la finale et c'est peut-être ça qui coûte la finale à l'Argentine. C'est marrant de voir en quelques années comment ont changé les points de vue et les considérations de certains joueurs ou de certains coachs.
Ouais, c'est vrai, mais tu vois, donc c'est. Di Maria, bon, pour le coup, je suis vraiment pas fan, mais cette saison-là, il est incroyable en jouant la plupart du temps au milieu. Là, sur ce match retour, il est dans un milieu à trois à côté de Xabi Alonso et de Modric. Et c'est vrai que ça symbolise un peu aussi ce que faisait le Real par rapport au Bayern. C'est-à-dire que le Real met un joueur qui est plutôt offensif, à la base c'était un ailier gauche qui se contentait entre guillemets de déborder, et là le met au milieu pour être travailleur, mais pour être aussi capable d'exploser sur les contre-attaques au besoin. Et c'est vrai que les concessions que fait Guardiola sur ce match-là, hein, ça lui ressemble pas forcément parce qu'elles sont plus philosophiques que sur le fait de vraiment préparer son équipe, même si on peut dire que quand même, enfin Cruyff par exemple sur la finale 92 qui gagne face à la Sampdoria, il met un milieu entre guillemets défensif de plus que d'habitude, et même lui il disait enfin je sentais que j'avais plus ou moins besoin de le faire et j'aurais pu le regretter parce que du coup j'aurais un peu perdu si j'avais perdu j'aurais perdu sans combattre vraiment avec mes idées, donc ça, tu peux quand même faire des concessions en étant assez idéologue et en étant toujours presque extrémiste dans ta façon de procéder. Mais ce 4-0-là, c'est aussi on va dire le début des caricatures et de l'anti-Guardiola et de à la fois les gens qui vont se dire vraiment Guardiola est un loser en Ligue des Champions, ce que tu peux entendre dans la mesure où même s'il fait des Même s'il a un très gros palmarès, il a pas gagné depuis quand même pas mal d'années, depuis qu'il est parti du Barça. Et puis c'est le modèle transition qui, alors même si c'est pas Klopp et que Klopp fait finale l'année d'avant en jouant un truc encore plus, plus gegenpressing, etc. C'est quand même la preuve que si t'attaques mais que t'attaques mal et que t'es mal positionné et que tu fais pas ça correctement et que ta phase de possession n'est pas suffisamment bossée. Si en plus t'es fragile sur coup de pied arrêté, bah tu peux vite prendre des déculottés.
Et puis il y a cette saison suivante où cette fois le Bayern progresse dans son idée collective du jeu, où il y a une meilleure possession du ballon et un positionnement vraiment en progrès, mais t'arrives en demi-finale contre le Barça avec Robben et Ribéry blessés. Et c'est aussi une histoire, un des thèmes de l'histoire de Guardiola au Bayern. Et d'ailleurs il s'était embrouillé avec le docteur pour ça, c'est que souvent lors de ces matchs-là, le Bayern n'avait pas ses meilleurs joueurs. Et là, le fait de prendre en plus des risques dans ta manière de défendre, où je crois qu'à l'époque il démarre à 3 et quasiment avec du marquage individuel sur Suarez, Neymar, Messi, ça lui coûte cher, pas forcément au début du match où le Bayern a le contrôle, mais à la fin du match où quand t'arrives plus à te créer des occasions et t'arrives plus à te créer de temps fort à travers des occasions parce que t'as pas aussi les remplaçants sur les côtés et ça viendra après pour suppléer Robben et Ribéry, bah ensuite dans l'écart individuel de tes défenseurs face aux attaquants du Barça. Là, tu pouvais plus faire grand-chose et Messi fait gagner la confrontation sur 10 minutes à la fin du match.
Ouais, c'est ça, c'est alors le symbole, c'est Boateng et qui se prend un crossover de l'enfer par Messi.
Ouais.
Qui pour le coup, tu vois, on dit parfois oui, Messi, tu sais ce qu'il va faire, mais c'est difficile à stopper. Là, Messi part du côté opposé à ce qu'il fait d'habitude, donc forcément, Boateng, qui je pense anticipe le fait qu'il reparte intérieur, se fait
C'est
piéger
ça,
là-dessus.
ouais.
Mais c'est vrai que c'est con à dire, mais c'est vrai, c'est que Messi gagne un peu le match à lui tout seul, et que cette saison-là, le Barça de Luis Enrique, c'est vraiment ce que pouvait être ensuite le Real de Zidane, c'est-à-dire qu'on a des super individualités et on fait en sorte de pas prendre trop de risques derrière et puis de les mettre en bonne condition devant, en gros.
Bah, si tu fais le parallèle, ça ressemble quelque part au Real d'Ancelotti la saison précédente. C'est-à-dire que t'as un Rakitic qui va équilibrer le milieu de terrain, un peu comme pouvait le faire un Modric ou un Di Maria qui va se sacrifier un peu, en allant moins apporter offensivement. Mais par contre, tu as deux joueurs, notamment Neymar et Messi, et comme Bale et Ronaldo l'année d'avant, que tu laisses un peu libre de leur mouvement, et c'est pas grave s'ils reviennent pas défensivement par moment, parce que tu sais que quand tu vas récupérer le ballon, et c'est aussi l'histoire de cette saison-là de Barcelone, c'est qu'il y a beaucoup plus de contre-attaques que par le passé. Et c'est marrant de voir que Guardiola, qui poussait le Bayern vers un football de position de possession, s'est fait éliminer par un Barça qui s'éloigne un peu de cette idée-là.
Ouais, et puis pour le coup, alors ça c'est subjectif, mais on va dire que Guardiola essaie quand même de construire des modèles qui peuvent lui survivre ou pas selon que le coach suivant décide de garder les mêmes recettes. Mais ce Barça-là, mais comme le Real d'Ancelotti, repose tellement sur les individualités que c'est un truc un peu ponctuel et que si tu changes les joueurs et si tu perds Neymar par exemple, tu peux plus jouer de la même manière la saison suivante. C'est un truc beaucoup plus ponctuel où tu mets tes individualités dans les meilleures conditions, mais si t'as pas la même équipe, tu dois procéder différemment. Mais pour en revenir au Barça Bayern, c'est vrai que t'as souvent eu un débat sur est-ce que le fait de jouer à 3 en début de match fait que tu prends des buts en fin de match. Pour moi, non. Mais c'est vrai que
non, mais
tu.
Parce qu'il le corrige rapidement pendant le match où ils prennent
il
des vagues
de
pendant
20
15 minutes
je
et je crois qu'il passe à 4. Il fait un changement. Je sais plus si c'est de système ou de joueur, mais c'est assez rapidement corrigé. Et ça reprend ce que tu disais sur est-ce que parfois il réfléchit pas trop à d'un coup passer à 3 alors que tu vois, Enfin, il y avait sans doute une intention où il se dit ça va me rendre plus solide. Mais peut-être que le fait de changer de système juste avant un match comme ça, alors que tu es habitué à être à 4, tu vois, il y a beaucoup de questions sur est-ce que Guardiola fait trop d'adaptations, alors que parfois il a une équipe qui est aussi bonne que l'adversaire. Et c'est un truc qui vaudra aussi après pour ses matchs à City parfois.
Ouais, c'est vrai. Alors, le pire, c'est qu'à 3, tu peux imaginer ce qu'il a fait. Enfin, par exemple, là, Naples joue à 3 face aux 3 attaquants de Liverpool.
Ouais.
Donc, enfin, sur le papier, c'est pas parce que tu t'es en égalité numérique
Que
que
ça
ça
va jouer,
fonctionnera
c'est
pas.
ça, ouais.
Mais face à ce Barcelone-là qui jouait beaucoup plus la transition, chaque ballon perdu, c'était la panique à bord, quoi. Ou alors, faut que t'aies un numéro 6 qui soit capable de revenir, etc. Enfin, là, dans l'animation, ça fonctionnait absolument pas. Mais disons que son Bayern n'était pas suffisamment bon individuellement sur ce match-là pour se permettre. Dans tous les cas, tu savais qu'avec un Messi comme ça, tu risquais de subir des choses compliquées. Bon, là, il y a 3-0. Mais le problème, c'est entre guillemets pas de prendre 3 buts, même si t'as Bernat qui est absolument cataclysmique et qui t'en coûte un ou deux. C'est que, pensez pour Bernat, hein, ça fait quand même, c'est quand même 3 ans et maintenant il est au PSG. Mais pour moi, c'est pas tant d'en prendre 3, même si voilà, c'est surtout de pas être capable d'en marquer un ou deux, quoi. C'est surtout là que ça se joue parce qu'en plus, tu gagnes le match retour. Mais c'est qu'en gros, à 3-0, t'es éliminé alors que si tu perds 3-1, voire 3-2, tu peux t'en sortir et c'est l'incapacité véritablement à avoir mis en danger une équipe de Barcelone qui était quand même moins souveraine défensivement parce qu'elle était moins capable de faire la possession défensive.
Ouais, c'est paradoxal parce que c'est aussi la saison où le Bayern, comme le Barça à l'époque, commence à faire des démonstrations en Ligue des Champions. Il y a le match contre la Roma en poule, où gagne 7-1 avec un Robben ailier gauche alors que de l'autre côté il n'y a pas d'ailier il y a pas ailier, y a, ailier droit pardon alors que de l'autre côté il n'y a pas d'ailier gauche. Ça perturbe beaucoup la Roma de Garcia qui en prend 7. Il y a en huitième de finale cette victoire 7-0 contre le Shakhtar. Il y a en quart de finale cette victoire 6-1 contre Porto après avoir perdu 3-1 à l'aller. Donc il y a déjà cette capacité à renverser des matchs, des situations que Guardiola sait faire entre deux tours. Tu vois, entre deux matchs même, où il s'était très bien adapté contre Liverpool après avec City. Mais sur un match même, parfois, t'as l'impression qu'il y a peut-être trop de modifications avant le match et pendant le match pour une équipe qui normalement a tellement de certitudes. Et ce qui se passe après, par contre, la saison suivante, 2015-2016, est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus prometteur de la part de Guardiola à l'époque. C'est-à-dire qu'il atteint vraiment une stabilité. Et il y a cette demi-finale contre l'Atlético qui ressemble un peu à celle contre Chelsea en 2012. C'est-à-dire que tu te crées énormément d'occasions, tu es supérieur à l'adversaire sur le match retour au moins, tu pratiques un style de jeu et une idée de jeu qui est la plus proche de ce que tu imaginais, et tu perds quand même. Et c'est là que c'est triste pour le Bayern, pardon, parce que Guardiola et tout le staff considèrent à l'époque ce match comme leur plus réussi sur les 3 saisons.
Déjà, c'est triste pour le foot parce que ça aurait dû être une finale. Après, là, t'as eu double dose, donc d'un côté, c'est sympa, mais l'autre demi-finale, Real Manchester City, était quand même d'un niveau très compliqué. Et au final, le vainqueur, celui qui sort de cet épouvantable Atlético Bayern, sachant qu'en plus, c'était tout le. Enfin, alors, c'est pas des carrés de tableau comme en NBA ou quoi, où tu sais ça à l'avance, mais je veux dire, l'Atlético sort déjà Barcelone avant. et le Bayern sort un très bon Benfica. Enfin, du coup, tu avais tout un parcours du combattant, parce que sachant que le Bayern sort difficilement la Juve
La Juve,
déjà
ouais, c'est
en
ça, en
huitième.
huitième, ouais.
Et en gros, c'est le Real qui va au bout, alors que c'est l'Atlético et le Bayern qui ont sabré tout le monde dans le tableau, quoi. Donc
Le
c'est un
Real
peu
qui
dommage que c'était les deux meilleures équipes pour moi.
avait manqué de se faire sortir par Wolfsburg en quart à l'époque. C'est marrant de voir tu vois, encore en peu de temps ce qui peut se passer de dingue. Et la finale, où on se souvient que Ramos découpe Carrasco à 10 secondes de la fin, alors que Carrasco part tout seul en contre et il y a 3 joueurs de l'Atlético libre, je crois. Et il l'attrape au milieu de terrain et l'arbitre siffle la fin du match juste après, quoi. Et ça part au tir au but. Ou en prolongation, je sais plus, un des deux, mais c'est aussi ça l'histoire de la Ligue des Champions. Elle a fait beaucoup de mal à Guardiola, c'est que sur des événements très précis et très ponctuels, comme le penalty raté de Müller par exemple contre l'Atlético, bah tu rates un sacre quasiment.
Et c'est vrai que, enfin, pour l'avoir revu il n'y a pas si longtemps que ça, le Bayern Atlético, où Griezmann donc met le 1 partout, qui qualifie quasiment l'Atlético. Ensuite, le Bayern doit marquer deux fois, il marque qu'une seule fois. Mais c'est totalement incompréhensible. Alors, le but, c'est déjà. Alors, tu t'exposais à ça parce que tu jouais très très haut, mais c'est un enchaînement d'erreurs avec Alaba notamment. Mais t'as deux, voire trois joueurs qui peuvent sauver le truc. Ensuite, ça part en un contre un. Voilà, c'est Griezmann, c'est pas Ismaël Bangoura, donc du coup, ça fait but. Mais là où c'est triste quelque part. Alors, enfin, l'Atlético était dans son idée de jeu et le plan était super maîtrisé, donc rien à dire. Mais c'est que c'est peut-être l'un. Je sais pas si c'est pas le meilleur match, en tout cas préparé tactiquement par Guardiola dans sa carrière, parce que avec Barcelone, malgré tout, tu peux toujours te dire oui, mais il avait les meilleurs joueurs.
Il avait
Donc du
Messi
coup,
surtout.
oui, c'est ça. C'est-à-dire, t'as le meilleur milieu quasiment, je vais pas dire de l'histoire, mais pas loin pour en tout cas ce que tu veux faire dans ton idée du contrôle. Et puis t'as Messi devant qui, quand il veut, gagne les matchs à lui tout seul. Donc du coup, c'est presque, tu leur donnes un peu une guideline, quand tu leur dis un peu, on va faire ça. Mais ensuite, ils sont tous formés au club quasiment. Enfin, je vais pas dire que t'as rien à faire, mais une fois que t'as réussi à créer un modèle de jeu. Bah c'est allez-y, amusez-vous, faites juste attention à ça et ça, parce que l'adversaire est genre est bon sur coup de pied arrêté et contre-attaque côté droit, mais sinon le reste c'est bon quoi. Alors que là, sur le Bayern, il modifie vraiment totalement la façon de jouer, et puis au bout de 3 ans, t'as enfin ce qui doit être l'aboutissement, à savoir bon bah tout fonctionne véritablement comme je le veux, et on est capable de jouer dans 50 systèmes différents. On fait des matchs en 2-3-5 face à, je crois que c'est Nuremberg, enfin face à des équipes où en Bundesliga tout le monde défend très bas et pourtant tout le monde prend 5-0 chaque semaine. Et là, même l'Atlético, qui était quasiment infranchissable, c'était vraiment très très difficile de marquer des buts à cet Atlético-là. Et pourtant, l'Atlético concède un nombre d'occasions absolument incroyable.
T'as aussi Oblak qui fait enfin une
Oblak,
demi
quoi.
oui c'est ça, mais je crois qu'on n'a pas on compile pas assez les matchs historiques d'Oblak qui sur les 3-4 dernières saisons a à peu près 5 ou 6 matchs incroyables par année.
Sachant qu'Oblak, déjà, je crois, la saison où il explose avec Benfica, je crois qu'il fait finale européenne en. Contre Chelsea, si je dis pas de bêtises.
Quand Benitez la remporte en 2013 je crois, ça doit être
Ouais,
ça.
il fait finale Ligue Europa. Ouais. Enfin bref, c'est vrai que alors après, ça, c'est l'histoire du foot. Hein. Tu peux pas. Comment dire? Si tu fais ça pour tous les coachs, tu trouveras toujours des matchs qui
Non, mais
sont perdus de manière injuste.
c'est
Mais
aussi
c'est
pour
vrai
ça
que.
qu'on a mentionné la demi contre Chelsea en 2009, qui lance l'ère Guardiola alors qu'il aurait pu enfin pas la terminer parce qu'il serait quand même resté, mais disons que tu démarres pas du tout de la même façon.
Oui, c'est un imbroglio dans l'autre sens. Alors Chelsea avait quand même moins de maîtrise enfin c'était une maîtrise différente quoi. T'étais serein derrière, mais t'avais qu'un seul but d'avance. Alors que là, Bayern était serein devant. Il aurait juste fallu être un tout petit peu plus réaliste et tu gagnais 4-0 et c'était réglé. Mais c'est vrai que t'as même le but de Saoul à l'aller qui est un peu improbable. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage, disons tu parlais de narratif tout à l'heure sur le côté. Disons, ça récompense pas ce qu'a fait Guardiola, et du coup, t'es obligé un peu de, pas de réécrire l'histoire, mais t'es obligé de rappeler tout ça, rappeler tout le contexte, parce qu'au final, si tu prends juste les résultats bruts, tu te dis, ah, bah, c'est encore une élimination en demi-finale. Alors qu'au final, elle a strictement rien à voir avec les autres éliminations en demi-finale, à part peut-être celle face à Chelsea de Ramirez. Et ça couronne pas, disons, toutes les idées qu'il a eu au Bayern. Au final, c'est le même bilan que Ancelotti qui fait demi-finale aussi. Ancelotti qui passe aussi d'ailleurs pas loin de la finale.
Mais c'est pour
Alors
ça
qu'au
que si.
final, t'es allé beaucoup plus loin dans ton idée de jeu, quoi.
Bah, si tu compares en fait avec les entraîneurs qui étaient au top comme lui à la fin des années 2000, donc c'est Mourinho, c'est Benitez, c'est Ancelotti, dis-moi si j'en oublie d'autres, j'essaie de réfléchir à tous ces entraîneurs-là, tu vois, y avait ça, il y avait Mancini à l'Inter qui faisait des bonnes choses, mais
Il y
qui
avait
allait
la
pas très
meilleure
loin en Ligue
équipe
des
de très
Champions.
très loin, quoi.
Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, de tous ces coachs-là, c'est le seul qui, encore en Ligue des Champions récemment, enchaîne des demi-finales, en tout cas avec le Bayern. Mourinho, ça fait quand même quelques temps qu'il n'a pas fait une demi. Je crois que ça doit faire 2014 quand il perd contre l'Atlético avec Chelsea. Je crois que c'est ça, quand l'Atlético va en finale.
Et surtout, ça fait quelques années que tu sais plus trop ce que veut faire Mourinho.
T'as Ancelotti qui enchaîne certes, mais qui arrive jamais à se stabiliser dans un club depuis pour diverses raisons. J'ai l'impression que tu vois Guardiola, t'as l'impression que c'est le mec qui évolue le plus, mais dont l'évolution est la plus mal payée en Ligue des Champions. Et c'est l'occasion de passer à notre troisième acte, et ça c'est la période avec Manchester City, où là tu changes vraiment d'idée. Alors certes, t'as le thème qui revient de Guardiola a choisi l'équipe championne déjà et a choisi la meilleure équipe d'un championnat. Mais par contre, en termes de hiérarchie européenne, prendre Manchester City en 2016, c'était un truc très risqué pour lui par rapport à ce qu'il avait connu auparavant.
Ouais, bah c'est alors c'est sûr qu'il prend l'équipe la plus riche, en même temps il serait con de prendre la plus pauvre quoi. Je veux dire, à partir du moment où t'as l'opportunité, c'est quand même bien de le faire. Et puis c'est vrai que moi je rappelle toujours ça, c'est alors ça, on peut trouver que c'est une excuse, mais n'empêche que quand il commence avec la réserve du Barça, il gagne quasiment tous ses matchs, il est champion, et il fait monter des mecs en équipe première. Donc je veux dire, il a quand même montré que même s'il était enfin, il était avec des joueurs formés au club, etc., que ses idées pouvaient quand même être solubles à un niveau plus faible. Mais c'est vrai qu'il arrive à City, et là, pour le coup, tu as un effectif très vieillissant. Tu n'as pas de latéraux, enfin, tu as des latéraux, mais voilà quoi,
Bah, t'as
c'est
Sagna et Clichy, hein.
Zabaleta,
Sa première
Clichy,
saison, c'est Sagna,
Sagna.
Clichy, c'est ça.
Donc, c'est très compliqué. Et là, en fait, on va dire qu'il essaye de faire des choses, ça fonctionne plutôt. Mais enfin, en fait, son jeu est quand même basé sur une responsabilisation des 11 joueurs sur le terrain, quoi, à peu de choses près, et notamment du gardien, etc. Et t'as un, donc le gardien, où Bravo est passé à côté de sa saison complètement, quoi. C'est-à-dire, dès le début, il se foire à moitié contre United, et ensuite, il aura quand même des périodes de 4, 5, 6 semaines où chaque tir cadré fera but. T'as les latéraux qui peuvent quasiment rien apporter. Alors, tu sais, t'essayes de les mettre intérieur ou autre, mais tu dis, est-ce que c'est parfois pas plus pour les cacher qu'autre chose?
Bah,
Parce que
donc,
tu
à la
vois.
différence de Lahm qui pouvait jouer à l'intérieur, mais avec le ballon ou sans le ballon, quand tu as Sagna ou Clichy à l'intérieur, tu peux pas leur demander la même chose techniquement. Et c'est aussi ça la différence. Ils vont couper les contre-attaques, ils vont être à l'intérieur, ils vont fermer l'axe du jeu à la perte de balle. Mais dans le contrôle du jeu, ils apportent pas ce que pouvait apporter Lahm.
C'est vrai. Après, malgré tout, enfin, tu vois, t'as plein de problèmes, mais déjà, le début de saison est top. Je me souviens enfin, j'avais écrit un papier en disant, quelqu'un finira sans doute par trouver la solution, mais pour l'instant, c'est le cas de personne. Je sais plus, je crois qu'ils gagnent leurs 7 premiers matchs. Enfin, vraiment un super début, et les problèmes viennent plus à l'automne. Et en Ligue des Champions, alors, ok, t'es éliminé en 8e, mais finalement, si tu regardes un peu les scénarios, t'es pas moins en galère que contre la Juve avec le Bayern. C'est-à-dire que t'es qualifié jusqu'à 5-10 minutes de la fin, où t'as une tête de Bakayoko sur un coup franc. Sinon, t'élimines Monaco, qui ensuite fait demi-finale, qui était quand même une vraie bonne équipe, hein, le Monaco 2017 qui est champion. Alors que je dirais que le Bayern, tu passes presque miraculeusement sur un but à la dernière seconde, où tu vas en prolongue, je crois, contre la Juve.
Contre la Juve, ouais.
Donc c'est ces histoires aussi là où t'es éliminé en 8e de finale, mais t'aurais pu être éliminé en 8e de finale 1 ou 2 ans avant. Et c'est presque, enfin, bien sûr, l'élimination en 8e de finale fait tache, parce que voilà, factuellement t'es sorti dès la phase de poule. Mais disons, le bilan est aggravé par le fait que Chelsea soit champion.
Ouais.
Sinon, on se dirait, bon, ok, Monaco avait pas forcément une meilleure équipe que toi, donc du coup ça reste une déception. Mais c'est plus l'impression générale, je pense, qui fait qu'on dit, ouais, la première saison est ratée, que cette élimination en 8e de finale. Bien sûr, tu fais pas un super match. C'est un match trop ouvert, je trouve, sur les deux confrontations. Et t'as pas suffisamment de maîtrise, et du coup, c'est un peu d'un but à l'autre, et l'équipe qui est le plus réaliste marque, quoi.
C'est déjà
Enfin,
ce qui avait fait mal à son Bayern en 2014 quand il perd contre le Real, où il cherche moins le contrôle du jeu et il s'en veut a posteriori parce que contre une équipe comme ça, si t'as pas le contrôle du jeu. Et c'est ce qu'il a dit aussi, bah, on l'a vu récemment en championnat contre Liverpool, là, je sais pas si t'as vu le match contre le Rez, là où ça fait 0-0, je crois, si je me souviens, ou un partout, 0-0.
si, 0-0, il n'y a pas un
Et
tir de match passé.
c'est un nouveau City qui va presser moins haut, qui est plus compact au milieu de terrain parce qu'il prend moins de risques dans ses sorties au pressing. Et il le dit après le match, mais si on joue un match où il n'y a pas de contrôle contre Liverpool, ça sert à rien, on n'a aucune chance de gagner. Et c'est peut-être une évolution de Guardiola, une nouvelle, après ce qu'il avait connu au Bayern où il voulait vraiment maîtriser les transitions et être très fort dans la possession. Et là, c'est peut-être dans l'autre sens où il se dit peut-être que parfois, j'ai pas besoin ou il faut pas que j'aille chercher dans le camp adverse parce que c'est ce qui lui a fait mal aussi par contre, en 2018, sur le quart contre Liverpool. C'est-à-dire que quand son premier rideau et son deuxième rideau étaient éliminés, derrière, tu n'as pas les défenseurs pour défendre en 3 contre 3, voire en 4 contre 3. Parce qu'individuellement, Stones, Otamendi, Laporte, même s'il en dit beaucoup de bien en conférence de presse, il n'a jamais eu des défenseurs aussi faibles en Ligue des Champions, et même ses latéraux ne sont pas des très bons défenseurs.
Bah déjà, il faut se méfier de ce qu'il dit en conférence de presse parce qu'il critique jamais personne. Hein.
Ouais.
Il passe la brosse à reluire en permanence, donc du coup, c'est un peu difficile de savoir ce qu'il pense. Si tu vois surtout ce qu'il pense des joueurs, sur est-ce qu'il les aligne ou non. Mais sinon, c'est parfois, il y a des titulaires par défaut, quoi. Je me souviens aussi de Clichy ou autre, il disait du bien. Je pense qu'au fond de lui, il savait que c'était un peu des joueurs limités pour ce niveau-là. Et c'est vrai que tu parles un peu des dernières évolutions et du match face à Liverpool. Il y a deux choses. Il y a un, le fait de pas aller chercher très haut. Et deuxièmement, le fait, alors, de relancer au sol. Mais comment dire, de relancer au sol, mais un peu pour tuer le match en fait. Enfin, c'est de la possession défensive, mais c'est même pas au milieu de terrain en endormant tout le monde.
Oui,
C'est
un truc
entre
dont
les
il a toujours
défenseurs,
voulu
quoi.
se défendre et s'éloigner. Où il dit toujours j'aime pas le tiki-taka, j'aime pas la possession pour défendre, mais il l'a quand même fait par moment. L'Espagne le faisait plus que le Barça à l'époque. Peut-être que c'est un nouveau courant pour lui aussi.
C'est vrai quoi, en fait là j'ai l'impression que sur ce match-là, il tue le pressing à force de passes qui sont pas là pour casser les lignes, alors que d'habitude c'est quand même un peu l'idée. On fait des passes à la fois pour nous se mettre en bonne position pour ensuite, si on perd la balle, bon, on sera bien positionné. Ce qui est par exemple, ce qui était le grand problème du Arsenal de Wenger sur les dernières années, c'est que ton attaque était mal positionnée quand tu avais la balle. Du coup, dès que tu la perdais, bah, tu prenais une transition parce que tu n'avais personne placé pour la récupérer dans les zones où il fallait. Là, c'était des passes pour en gros casser le pressing et décourager l'adversaire parce que voilà, on fait tourner et tu peux pas. Enfin, sauf à presser avec 5 joueurs contre 3, mais au bout d'un moment, tu peux pas. Au mieux, tu seras en égalité numérique et tu pourras pas couper toutes les lignes de passe et du coup, tu endormais un peu l'adversaire. Mais c'est vrai que parfois, tu te dis, heureusement que c'est Guardiola parce que ça serait un autre entraîneur. Tu te dirais, tiens, c'est très négatif, certaines façons de faire, en tout cas certaines attitudes sur X ou X phases.
Bah disons qu'il s'est donné du crédit avec ses 4-5 premières saisons où tu t'es dit oui, peut-être qu'il fait ça, mais en même temps il est capable de transmettre ça à ces équipes-là. Mais la vraie difficulté là, ça va être pour lui. Même, je pense que même aujourd'hui, s'il est champion d'Angleterre cette saison, il faudra faire plus en Ligue des Champions. Et là, ça a plutôt mal démarré, parce que dans un groupe où en dehors de City, c'est assez homogène. Il perd contre Lyon le premier match, et il gagne au forceps contre Hoffenheim le deuxième. Je crois que tu as vu les deux rencontres.
Ouais.
Quel état des lieux tu fais de City en Ligue des Champions, et est-ce que Guardiola et son idée de jeu très radicale quand même, où il veut absolument avoir le ballon, et c'est aussi parce que je pense qu'il s'est pas vraiment préparé, ou alors il faut que ça vienne un plan sans ballon pour son équipe. Est-ce que ça peut fonctionner avec aujourd'hui le meilleur 11 de City, voire le meilleur 14? Parce que tu sais qu'en Ligue des Champions, tu as toujours 2-3 blessures lors de mars ou avril, il y a des matchs importants.
Bah, j'ai toujours des inquiétudes sur le niveau de l'effectif sur certains postes. Tu vois, il y a deux numéros 9, Agüero qui pour le coup, alors je détestais Agüero façon de parler parce que il me rendait fou dans sa façon de pas comprendre ce que voulait Guardiola et City et d'être toujours à contre-courant. Là, je trouve qu'il a vraiment progressé dans le jeu, comme quoi mieux vaut tard que
Il a
jamais.
pris beaucoup d'avance sur Jesus hein, ces derniers mois.
Et ouais, c'est ça où c'est intéressant, c'est que Agüero comprend mieux ce qu'on lui demande à la fois dans le pressing, le jeu sans ballon, les remises, etc. Donc il est plus un numéro 9 qui va marquer ses buts, mais qui, en dehors des buts, va un peu tuer les actions. Et à l'inverse, Jesus qui avait ça et qui n'était pas forcément tueur, il sert plus à grand chose depuis de longs mois, quoi. Depuis même un tout petit peu la fin de saison dernière, la Coupe du Monde, il va quand même se rendre disponible et faire des remises, mais il va jouer limite comme un milieu de terrain, il sera plus du tout trouvable dans la surface. Donc là, en ce moment, t'as vraiment un seul neuf de haut niveau, de très haut niveau même. Fernandinho en 6, c'est bon, il y a 2-3 trous par saison, faut pas que ça arrive au mauvais moment. Genre, par exemple, contre Lyon, c'était compliqué. Et derrière, tu dis qui est-ce qui peut jouer numéro
Bah,
6?
il en conférence de presse, il parlait de John Stones parce que c'est à peu près le seul qui peut tenir ce rôle, à moins que ce soit vraiment un De Bruyne très bas comme il l'a fait parfois.
Mais en fait, c'est-à-dire que il a l'effectif, faut pas se mentir, hein, c'est pas, il a quand même des problèmes de riche sur pas mal de postes, hein, faut pas, voilà, il peut s'adapter, mais il risque parfois de devoir s'adapter contre nature, c'est-à-dire que si Fernandinho se pète et qu'il est sur un match où il voulait vraiment un 6 plus destructeur, il risque quand même d'être obligé, s'il fait pas confiance à Stones, de mettre De Bruyne très bas à côté des deux Silva, par exemple. Ce qui pourra lui offrir d'autres choses dans le contrôle, etc. Mais il aura pas ce profil-là parce qu'il aura pas de remplaçant. Et c'est un peu pareil l'an dernier quand Mendy se pète sur le défenseur latéral gauche. C'est-à-dire que tu dois faire différemment finalement avec Delph qui joue intérieur et Zinchenko quand Delph se pète, bah ça t'apporte d'autres choses dans le contrôle, etc. T'as plus de débordement, mais t'as encore plus de supériorité au milieu et finalement t'arrives à mettre tes ailiers en meilleure position parce que t'as des surnombres dans l'entrejeu. Mais c'est une adaptation qui est forcée. Alors celle-là marche, mais on voit par exemple que Delph face à Lyon, ça marche pas du tout latéral gauche. Donc c'est vrai que tu t'as pas suffisamment de garantie sur l'état physique de tes joueurs pour te dire bon, ces 11-là se blessent jamais, donc on ira avec eux jusqu'au bout. Et puis tu as des individualités qui vont être mises en bonne position comme Mahrez depuis le début de saison, mais qui vont gâcher beaucoup d'occasions. Donc tu as des certitudes sur apte ce que va faire Bernardo Silva, je pense que maintenant on peut le dire. David Silva, même s'il commence à fatiguer un petit peu, que sa Coupe du Monde est pas bonne, je pense quand même qu'il peut encore faire une saison de très haut niveau. De Bruyne pareil, mais tu
Silva,
as
il est
deux
toujours
trois
capable
interrogations.
de, tu sais, de 30-40 minutes où d'un coup il va être super dispo entre les lignes, il va créer 3-4 occasions sur une période, et tu te dis, bon d'accord, c'est bon. Ils ont le gars qui va, pas forcément qui va conclure, mais qui va créer tout ce qui est possible pour cette équipe, et ensuite c'est plus haut que le problème peut exister.
C'est un peu comme Doncic, là, qui arrive en NBA. Pareil en Euroleague, il faisait les trois quarts de ses stats, il les faisait sur 5 et 10 minutes, quoi. C'est-à-dire, il faisait toujours des 15-16 points, mais il y en avait 10 ou 12 qui venaient sur 2-3 minutes où le mec était injouable, et sinon, sur le reste du temps, il était un peu banal, quoi. Il se fondait dans le collectif, mais sans plus. Et c'est vrai que Silva, c'est parfois ça, c'est-à-dire que pendant une mi-temps, tu vas quasiment pas le voir, et puis d'un coup, il se passe 10 minutes où il crée tout. Au lieu de faire simplement des passes qui font avancer le jeu mais qui vont pas faire de décalage, il va te trouver trois passes tranchantes et te mettre une lucarne, et puis il va pas gagner le match, mais en tout cas il va grandement t'aider. Mais ce qui reste pour moi, ce qui est quand même mieux géré, c'est la gestion des temps faibles, hein, le fait de qui était déjà bien géré l'an dernier, le fait de pas prendre de buts à la suite quand ça va mal. Alors c'est arrivé très rarement, mais les fois où c'est arrivé, c'était notamment contre Liverpool en Ligue des Champions.
Ouais.
Contre les petits, ça allait. C'est-à-dire que même quand tu prenais des transitions, généralement tu menais 2-3-0, hein,
Ils l'ont
donc tu étais à
vécu aussi
l'abri.
contre United en championnat, je crois que c'est quelques jours après la défaite contre Liverpool, où ils mènent 2-0, et je crois qu'après ils sont battus 3-2. Il me semble que c'est ça, où il y a Pogba
Ouais, oui, ils doivent
qui
être.
met.
C'est le match du titre.
Je crois que Pogba met un but ou un doublé sur ce match-là, Smalling en met un, et on s'était dit, juste après on avait fait un podcast, on s'était dit en fait, ouais, c'est aussi ça le problème de Guardiola, et c'était le problème lors de la demi-finale contre le Barça en 2015. C'est que quand il en prend un, dans les 5-6 minutes derrière, t'as l'impression que ces équipes, elles sont bouleversées.
Et c'est un manque de maturité pour moi. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes inhérents à la façon dont tu joues, mais dans tous les systèmes. Si t'es défensif, tu auras du mal à marquer. Si t'as pas suffisamment d'identité et que tu te reposes trop sur tes individualités, bah ou si tu fais des centres, enfin, tu seras dépendant du pied de tes joueurs ou de la forme de tes stars. Lui, bah, de la façon dont il joue, t'es jamais à l'abri du fait que, puisque t'as beaucoup la balle au sol et que tu fais beaucoup de passes, bah, si tu rates tes transmissions, bah, tu risques de choper des transitions parce que t'es positionné très haut sur le terrain. Mais pour le coup, être en galère absolue dès que t'as pris un but et être incapable de calmer le jeu et faire tourner, même faire tourner derrière, quoi. Et alors après, est-ce que tu, comment dire, est-ce que quand t'es, enfin, on n'est pas joueur de haut niveau, donc on sait pas comment ça se passe. Est-ce que même en faisant tourner derrière, le fait que des adversaires foncent sur toi au pressing en se disant c'est le moment de les attaquer, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut balancer la balle loin devant? Mais un, ça colle pas à la philosophie. Et deuxièmement, au final, en rendant la balle, tu rends des munitions à l'adversaire, donc c'est pas forcément mon calcul. Ou alors est-ce que tu dois continuer à passer, mais du coup, c'est pas facile de garder la confiance et de pas faire des erreurs dans les relances, je sais pas. Mais c'est vrai que les adversaires savent que dès que tu as marqué un but, sauf à être mené 5-0, hein, si tu vas presser très haut, bah, le fait que ça continue à vouloir absolument relancer au sol, bah, tu vas quand même créer beaucoup plus les conditions d'une erreur qu'à 0-0, où finalement tu as
Ça,
une sorte d'aura et de confiance des
tu
joueurs qui
peux
vont.
ouais tu peux en effet récompenser limite l'euphorie adverse, et c'était le cas contre Liverpool. C'est que tu l'équipe adverse vient de marquer un but, il y a un surplus d'énergie qui est naturel, et ça a été expliqué par beaucoup de scientifiques. Et derrière, en fait, le fait que tu les invites dans ton camp à travers ta possession de balle, ta circulation, à la moindre transmission ratée, en effet, ça peut faire enchaîner les buts. Mais sur ce côté-là émotionnel et qu'on est de concentration après des difficultés, il y a toujours les questions sur la défense centrale, et je réfléchissais pendant que tu parlais au niveau des défenses centrales championnes d'Europe ou finalistes de Coupe d'Europe depuis quelques années, et j'ai l'impression que c'est le seul poste ou le seul secteur où tu peux, enfin, t'as pas le droit d'être un escroc, quoi. Autant, tu vois, la Ligue des Champions 2005, Liverpool fait finale avec Jimmy Traoré, et puis je pense qu'on peut citer d'autres joueurs chaque année qui n'auraient pas dû être là. Mais sur une défense centrale, Stones, Otamendi, Laporte, ou j'oublie le quatrième, je sais même plus qui est dans l'effectif, mais j'en vois aucun qui me rassure à ce niveau de compétition. Voilà, bah, genre, ma compagnie, peut-être que dans sa meilleure forme, c'est limite le plus rassurant. Mais de ces quatre-là, il n'y en a aucun où tu te dis, je sais pas, t'as une impression que peut dégager un Ramos sur certains matchs de Ligue des Champions, que peut dégager un Varane, un Umtiti, que peut dégager un Chiellini, des joueurs comme ça, même un Van Dijk aujourd'hui. Je vois pas de défenseurs centraux du côté de City, ou même de latéraux, qui à ce niveau de compétition vont me dire, ah ok, c'est bon. Je sais que sur un temps fort, sur un temps faible, pardon, ils vont pas encaisser un ou deux buts.
Mais c'est amusant parce que tous les joueurs que tu cites, la plupart sont coutumiers du fait de jouer la moitié de la saison un peu sur
Oui.
leur qualité sans forcément se...
Nonchalamment, ouais.
Voilà, c'est ça. Mais sur les gros matchs, ça va être énorme. Enfin, faut encore voir le match de Varane ce week-end. C'est une catastrophe. Il coûte deux buts, mais le premier, par exemple, tu sais pas pourquoi il défend comme ça, quoi. C'est assez terrible. Mais à l'échelle d'une saison, même si c'est, enfin, dans le foot actuel, ça peut se payer sur le championnat parce que tu peux plus trop, le niveau est tellement disparate que tu peux plus trop laisser de points en route et du coup, tu peux vite perdre le titre si tu rates 3-4 matchs. Mais je veux dire, sur les derniers tours de Ligue des Champions, ils vont être bons, donc du coup, tu veux gagner la Ligue des Champions et tu vas dire, ah ouais, putain, gros défenseur alors qu'il y aurait eu 3 mois à oublier. Et bon, à l'échelle d'une saison, ça va pas forcément se voir, en plus, si t'as des bons attaquants, etc. Et ces joueurs-là, c'est un peu l'inverse, Otamendi, mais surtout Stones, c'est-à-dire qu'ils vont faire plein de super matchs en championnat où vraiment ils vont trouver les passes qui cassent les lignes.
Après, peut-être parce que tu vois, ils connaissent des situations différentes aussi. C'est-à-dire qu'en championnat, ils sont à 80% de séquences où ils maîtrisent et ils défendent pas. Et dès qu'ils sont en Ligue des Champions contre un adversaire plus fort, d'un coup, tu vois, ils vont défendre autant sur un match contre Liverpool que sur les 10 matchs précédents en championnat.
Du coup, on en revient à la question qu'on pose à Tourelle, est-ce que le niveau de la Ligue 1 est pas trop faible pour briller en Ligue des Champions?
Bah, c'est
Là, on
hélas,
serait,
c'est
est-ce que
ça.
le niveau de la première ligue et enfin, surtout la manière dont tes adversaires en première ligue jouent par rapport à la tienne, est-ce que ça te prépare pas mal à ce que tu affrontes en Ligue des Champions? Parce que finalement, tu affrontes quasiment aucune équipe de calibre Ligue des Champions, parce que même Manchester United joue pas forcément comme vont, ou alors juste sur une mi-temps, mais sinon, tu
Ah,
auras quoi? Tu auras
tu
Liverpool, Chelsea,
Tottenham peut-être.
Tottenham, mais.
Non, mais après ça te fait déjà quand même plus de matchs que dans pas mal de championnats, mais c'est plus. Enfin, je sais pas, c'est une question importante pour les coachs aussi, c'est est-ce que du coup tu pars, tu mises sur une maîtrise constante lors des matchs et tu fais pas vivre à tes joueurs des situations qu'ils vont rencontrer en Ligue des Champions? Ou est-ce que tu te dis peut-être que il faut aussi qu'on soit capable de maîtriser ces temps faibles-là et c'est pas grave si on en a un peu plus, tu vois. C'est un peu comme ça me fait penser un peu à tu te rappelles de Leroy Sané en Ligue des Champions contre Liverpool qui fait une passe plein axe après un corner, je crois. Il est positionné un peu dans l'axe du terrain, il rate sa passe, ça donne un contre pour Liverpool et il y a un but parce que c'était une position où il se retrouvait jamais d'habitude, tu vois, parce qu'il est toujours collé à la ligne de touche, il percute, il dribble, il centre. Là, le fait d'être à l'intérieur du jeu, peut-être qu'il avait plus le repère visuel, le repère dans l'espace qu'il pouvait avoir avant à Schalke où il variait plus les positions. Et c'est un truc que je me demande parfois sur le jeu de position de Guardiola, c'est que tu les habitues tellement à un système puissant et maîtrisé et régulier, que les situations où tu dois sortir de ce système-là parce que les situations, enfin les circonstances où l'adversaire te force à vivre autre chose, est-ce que tu es capable de les gérer? Et c'est aussi le succès de Zidane en Ligue des Champions, c'est ça, c'est qu'il y avait quasiment aucune situation qui se répétait parce que le Real, en dehors de centrer, maîtrisait pas forcément une phase quitte pour la créer suffisamment de manière répétée. Mais par contre, peu importe ce qui se présentait devant eux, ils savaient à peu près le gérer. Mais c'était un tout autre effectif aussi.
Mais justement, j'ai une question à te poser à ce propos. T'as quand même été, tu fais quand même du coaching, etc. Tu étais adjoint l'an dernier des U15 de la CBB. Tu sais, tu parlais de préparer tes joueurs à des, on va dire, en gros, à plus souffrir, quoi, à rencontrer des situations qui rentrent en contre pas naturellement. Vous avez gagné quasiment tous vos matchs l'an dernier en championnat et vous avez fait une finale de coupe d'Île-de-France contre le PSG où vous saviez que vous risquiez de pas avoir la balle. Est-ce que du coup, avant de préparer ce match contre une équipe qui a priori était 3 fois plus forte que celle que vous aviez rencontrée, vous aviez préparé ça sur les derniers matchs de championnat, je sais pas, en subissant plus, en tentant d'autres choses, ou alors tu continuais à jouer de la même manière en championnat et c'est simplement sur la semaine d'entraînement précédant ce match-là où tu préparais tes joueurs à beaucoup plus souffrir et à faire autre chose?
Non, sur les matchs précédents, on n'a rien changé. Je pense à la fois parce qu'on voulait finir si possible avec un bilan. Je crois qu'il y avait un record de victoire qu'on visait en 15-1 qui n'avait pas été fait. Je ne sais même plus si on l'a atteint parce que sur un match, on avait envoyé la B parce qu'on était en tournoi. Enfin bref, on avait rien changé dans notre préparation sur les matchs précédents. Par contre, sur le match en lui-même contre le PSG, on a un peu changé notre manière de presser. pour des raisons, parce qu'on voulait pas qu'ils aillent à l'intérieur du jeu, où ils avaient leur meilleur joueur, notamment un 10 qui est très bon et qui fait parfois des apparitions en U16 France. Mais on n'avait pas changé tant de choses que ça. Après, c'est un niveau complètement différent. Le PSG avait fait une finale du NSS la veille, donc on savait qu'ils allaient être un peu cramés et on voulait justement les presser, aller les embêter. Là, sur, je sais pas si sur, c'est vrai que sur un championnat, est-ce que tu peux préparer tes équipes à souffrir ou ton équipe à souffrir quand tu affrontes des adversaires beaucoup plus faibles que ce que tu vas affronter le mercredi? Je sais même pas si c'est jouable, tu vois, c'est pour ça que je me pose la question. Mais disons que c'est, est-ce que Stones et Otamendi vont suffisamment progresser et rencontrer la situation suffisamment souvent pour savoir la gérer en Ligue des Champions contre des adversaires plus forts? Et sinon, est-ce que le niveau de ces joueurs-là est suffisant? Tu vois, tu te demandais quand on préparait le podcast combien de joueurs de City ou du Bayern, de Guardiola, rentreraient dans son meilleur 11 de l'histoire guardiolaine, où c'est sans doute peut-être les 11 du Barça en 2009 ou en 2011. Bah, sur les postes de centraux, je réfléchis même pas à ceux de City, quoi. Alors que ceux du Bayern, tu peux réfléchir. Boateng et Hummels, peut y avoir débat avec un Mascherano, peut y avoir débat avec un Piqué selon les périodes. Ceux de City, c'est à des années-lumière pour moi.
Justement, si tu prends, si tu prends l'effectif de City maintenant, je te prends en déboté, et l'effectif du Barça qui gagne la Ligue des Champions, c'est l'écart pour toi, il est immense. Si tu prends l'écart moyen par individualité.
Je pense qu'il est immense sur les 3-4 meilleurs joueurs déjà. Ou le meilleur joueur de City, j'imagine qu'on va dire tous les deux que c'est De Bruyne.
Oui.
À peu près. Peut-être Agüero et Silva derrière, mais c'est quand même très très loin de ce que pouvait proposer à l'époque du Iniesta, du Xavi, du Messi ou même du Busquets. Et après sur la ligne de 4, la ligne défensive, alors le Barça c'était soit Puyol, Piqué, Abidal, Alves, soit Mascherano, Piqué, Abidal, Alves. J'en vois aucun à City aujourd'hui qui, où il y a débat. Peut-être Mendy à l'avenir s'il progresse défensivement, mais après il joue pas dans les mêmes zones qu'Abidal. Où Abidal jouait, parce qu'Abidal était quasiment un troisième central. Mais je vois pas qui l'effectif de City aujourd'hui déjà peut s'incorporer dans un 11 du Barça à l'époque. Peut-être un David Silva à son pic, tu le mets dans les trois de devant, tu mets plus de contrôle, ou tu le mets en concurrence avec un Fabregas. Mais sinon, je pense qu'il y a même pas. Enfin, il y en a aucun, peut-être il y en a certains qui feraient même pas le banc, quoi. Et aujourd'hui, c'est aussi ça le défi de Guardiola, c'est transmettre une idée de jeu. Et gagner une Ligue des Champions sans avoir un des 5 meilleurs joueurs du monde, peut-être. Tu vois, sans avoir un mec qui va gagner des matchs tout seul. Je pense qu'à la City, De Bruyne est ce qui s'en approche le plus, mais c'est pas encore hasard, tu vois. Donc, et en plus, il joue plus bas. Donc c'est aussi ça. Et c'est le débat qui existe aussi en NBA, c'est est-ce que tu peux gagner sans top joueur? Et pour l'instant, ça me paraît pas être le cas.
Finalement, si on devait résumer, parce que là, donc, on s'est fait une spéciale Guardiola. Un, pourquoi est-ce qu'on l'a fait? Et deux, qu'est-ce que Guardiola a apporté au foot en général, au-delà de ses réussites, de ses échecs? Si tu prends le foot en 2008, 2007, 2008, et le foot maintenant, 10 ans plus tard, alors bien sûr, tu as l'apport de plein d'autres coachs, hein, c'est pas le sujet, mais sur Guardiola, qu'est-ce qu'il a apporté au foot? J'en reviens à ma question de départ, je tourne en rond.
Je pense qu'on est sur, notamment sur de l'exigence. Tu vois, tu parlais tout à l'heure du fait que les mecs sont ultra sérieux en championnat et toujours intenses et jouent jamais avec nonchalance, à la différence peut-être d'autres défenseurs plus doués. Je pense que c'est ça, c'est de l'exigence, c'est aussi pour ça qu'il finit à 90 points ou au-dessus régulièrement en championnat, et c'est aussi ça qui a fait que les clubs se sont transformés. C'est pas le seul facteur, hein, il y en a beaucoup, mais le fait que le Real Madrid et le Barça avec Mourinho et Guardiola soient redevenus des superpuissances, c'est aussi parce qu'ils étaient drivés par des coachs hyper, hyper intenses et infatigables. Je pense que c'est la première chose qu'il a apporté, parce qu'on parle souvent de jeu, mais c'est aussi ça. Et puis après, en termes de jeu, il a ramené au-delà d'un style de jeu, bon, il a ramené un style de jeu, mais il a surtout redonné naissance à des débats et à des courants qui s'opposent. Parce qu'avant lui, j'ai pas l'impression, alors on était jeunes certes, mais j'ai pas l'impression que milieu des années 2000, il y avait beaucoup de débats sur les styles de jeu. Tu vois, du Milan, de Liverpool, de Manchester, de Ferguson à l'époque. J'ai pas l'impression qu'il y avait un débat moral ou esthétique sur comment il faut jouer, est-ce que c'est bien de jouer comme ça, est-ce que lui met ses joueurs dans les meilleures conditions pour qu'ils prennent du plaisir. Aujourd'hui, il existe ce débat. Tu te demandes, est-ce que Mourinho doit évoluer dans sa manière de voir le foot, est-ce que Klopp doit mettre plus de maîtrise dans les séquences d'attaques placées. Tu vois, par exemple, même sur Genesio, est-ce que Genesio crée une structure qui facilite les joueurs, ou le fait qu'il n'y ait pas de structure, ça peut les aider aussi. Tu vois, il y a plein de débats qui avant n'existait pas, peut-être parce que c'était moins intellectualisé, ou en tout cas c'était moins prégnant de voir des coachs parler de ça et surtout transmettre des idées aussi puissantes. un mec comme Sarri, je pense, tu vois, fait partie de ces nouveaux coachs où tu te dis, ah d'accord, il a une idée du foot très claire, et je pense que milieu des années 2000, c'était plus on analyse le résultat plus que le jeu. Aujourd'hui, on analyse vraiment beaucoup le jeu.
Et c'est vrai que c'est difficile de savoir qui, hormis l'intensité et d'avoir des meilleurs joueurs, qu'est-ce qui faisait que la première ligue était si forte sur cette période-là, milieu, fin des années 2000, 2005, 2006, par là. Tu as des saisons avec trois équipes anglaises en demi-finale de Ligue des Champions. À cette époque, on ne parlait pas de ce qui ensuite servait d'excuse comme le Boxing Day, etc. Le niveau des adversaires qui te fatiguaient en championnat, qui t'empêchaient de performer en Ligue des Champions. Mais c'est vrai que. Et est-ce que, par exemple, moi, c'est une vraie question que je me pose, pour le coup, il faudrait replonger dans les archives. Est-ce que le Arsenal des Invincibles était si fort tactiquement enfin, est-ce que Wenger a perdu, entre guillemets, tactiquement les années suivantes? Ou alors est-ce que c'est pas le football qui est devenu plus tactique et que, du coup, simplement en mettant des bons joueurs, des très bons joueurs dans les meilleures conditions, c'était plus suffisant et tu devais avoir un truc encore plus poussé parce que le football était devenu plus précis, quoi?
Ouais, est-ce que le niveau des coachs finalement n'a pas plus évolué que le niveau des joueurs? Parce que les grands joueurs, il y en a toujours eu, et je pense qu'entre 2005 et 2015, par exemple, le niveau des joueurs n'a pas connu une grande évolution, à part peut-être en termes de coffre et d'endurance et de capacité à répéter les efforts. Par contre, le niveau des coachs, j'ai l'impression que. Je sais pas, tu sais, c'est pour ça que tout à l'heure je me demandais qui étaient les meilleurs coachs des années 2000. Bah, j'arrivais plus trop à en citer, parce qu'il y en avait, moins qui se dégageaient. Aujourd'hui, t'as l'impression qu'il y a un top coach dans tous les gros clubs anglais, qu'il y a un top coach dans les gros clubs espagnols, moins peut-être, dans cette saison, qu'il y a en tout cas des très bons coachs en Ligue 1 sur pas mal de clubs, tu vois. Donc ça aussi, c'est peut-être un facteur. Le niveau des coachs s'est aussi amélioré avec Guardiola, avec Mourinho, avec des mecs comme ça qui ont montré qu'en fait le coach était ultra important dans un club, et c'était peut-être moins le cas au milieu des années 2000 où on parlait peut-être plus des joueurs, et c'est pas forcément à tort. Est-ce que tu veux rajouter un truc, Christophe, ou on passe au pari?
Non. Écoute, j'avais une idée, mais je viens de la perdre, donc passons par ici.
Tu la retrouveras peut-être un de ces jours. On passe au pari avec notre partenaire PMU.fr après ce point Guardiola qui a duré à peu près 1 heure. On fera peut-être d'autres points comme ça pendant la saison sur d'autres coachs. On pourra parler de Mourinho, on pourrait parler de Klopp aussi, parce que ça fait quasiment 10 ans qu'il est au plus haut niveau, en tout cas avec des gros clubs. On verra ce qu'on peut faire dans le futur. Les paris, on va se concentrer aussi sur la Ligue des Champions. Christophe, toi tu as 2 matchs qui concernent le même groupe. Je te laisse commencer par celui de ton choix. Vas-y.
Rappelle-les-moi, je ne les ai plus sous les yeux.
C'est le groupe de Monaco, donc il y a soit le Bruges-Monaco où tu as un pari, soit le Borussia Dortmund-Atlético où tu en as un. Je te laisse démarrer avec celui de ton choix, j'espère que tu te rappelles de ce que tu avais proposé.
Oui, c'est bon. Je vais commencer par Dortmund-Atlético, parce qu'en fait, alors je parlais des matchs que j'ai vus ce week-end, j'ai aussi vu le match de Dortmund face à Stuttgart, le Stuttgart de Benjamin Pavard. Parce que tout à l'heure, tu me parlais de Jimmy Traoré. Ça me fait penser à cette réflexion que j'ai eue et que je me dois de partager, voir si je vais me faire insulter sur les réseaux ou pas. Mais je pense que Benjamin Pavard, titulaire en finale de Ligue des Champions et pendant toute la, pendant Ligue, n'importe quoi, pendant la Coupe du Monde, en finale et pendant toute la Coupe du Monde, ça restera comme Jimmy Traoré, titulaire en finale de Ligue des Champions avec Liverpool. À
Ah,
savoir qu'un
c'est clair.
joueur où 10 ans après, tu te demandes comment est-ce qu'il s'est retrouvé là, au milieu de stars.
Ouais,
Et
tu vois, Jimmy Traoré, comme c'était sur une saison entière, disons que les gens avaient le temps de prendre conscience du niveau du gars. Je pense que Pavard sur 7 matchs, ça s'est peut-être moins vu, et puis il y a la demi-volée qui fausse complètement la perception du joueur.
du coup, là, je regarde un peu les matchs de Stuttgart où il est axe gauche, parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir avec son poste de latéral droit en équipe de France, et c'est compliqué. Là, c'était très compliqué ce week-end face à Dortmund. Et donc, Dortmund très. Alors, très impressionnant offensivement quand quoi, là, c'est sur la première demi-heure où ils marquent quasiment tous leurs buts. Il y a 3-0 à la 25e, le dernier en toute fin de match. Ensuite, ça ronronne beaucoup. Il y a beaucoup de choses intéressantes sur le côté offensif de Dortmund. Mais ça manque encore un peu de contrôle. Witsel de l'année, c'est pas mal, mais c'est pas avec ça que tu vas véritablement tuer les milieux de terrain adverses. T'es surtout quand même sur un foot de transition où tu profites beaucoup de la forme exceptionnelle de Alcacer en pointe et Royce qui est Royce quand il est pas blessé, on sait ce qu'il vaut. Et puis des deux révélations, Sancho à droite et Bruno Larsen à gauche, les ailiers, qui ont un peu fait oublier Pulisic, mais Dortmund très intéressant, qui peut être très très percutant, mais qui est pas qui pour moi n'a pas le fond de jeu et vraiment le contrôle qui lui permettra d'aller ultra loin en Ligue des Champions. Je pense que par exemple quart de finale ça sera déjà beau, mais ensuite tu seras sur un plafond, et qui affronte l'Atlético qui va mieux mais qui reste qui reste encore perfectible offensivement, qui se crée pas énormément d'occasions. Là, en plus, ils font match nul ce week-end alors qu'ils en concèdent pas beaucoup, beaucoup. Donc, si même l'Atlético n'arrive pas à gagner ces matchs-là, ça risque un peu d'être compliqué pour eux s'ils veulent aller jusqu'au titre. Bref, du coup, je vois un match nul à 3-20 entre les deux équipes. Je pense que la forme actuelle des deux fait que ça va se neutraliser. Alors après, est-ce que ça ira dans un sens ou dans l'autre? C'est est-ce que ça sera sur le tout offensif de Dortmund ou alors le très défensif de l'Atlético? Je pense plutôt que ça va, généralement sur les matchs comme ça, c'est plus l'équipe défensive qui contraint celle qui est très percutante à être beaucoup moins, enfin, lui offre beaucoup moins d'espace, surtout par rapport à la Bundesliga, que l'équipe très offensive qui en met
Il
l'autre dans sa folie.
n'y a que Genesio qui permet les adversaires dans la folie.
C'est vrai, c'est un peu Shutter Island, Genesio. Donc je pense que ça va faire 0-0 ou un partout, j'imagine bien un partout. Je pense quand même que Dortmund a tellement de réussite, je pense que Alcacer a des stats, je crois que c'est 11 buts sur 12 tirs cadrés ou un truc comme ça, enfin c'est un truc vers les 90% vers les 90% qui est à la fois un testament sur la manière dont il place bien ses ballons quand il les cadre, mais aussi les gardiens qui sont peut-être pas toujours voilà, c'est aussi quand même lié aux gardiens, c'est-à-dire si t'affrontais Oblak toutes les semaines, tu serais pas à 90%. Donc j'imagine quand même Dortmund marqué, mais les deux équipes me semblent d'un niveau à peu près équivalent, donc match nul à 3-20.
D'accord. Et sur Bruges-Monaco, tu as un pari qui a la même cote.
C'est ça, un pari qui a la même cote, 3-20 aussi. Victoire de Monaco à Bruges, ce que je trouve extrêmement bien payé. Alors, j'ai
Mais
pas
bon,
vu.
après, j'ai pensé la même chose sur Strasbourg-Monaco et ça n'a pas payé du tout. Il faut rappeler quand même que Florent est sur une série de 6 paris consécutifs réussis. Et
Voilà.
c'est une première dans l'histoire de Vue du Banc, mais c'était déjà une première d'être à 3, d'être à 4, d'être à 5. Là, il faut qu'il continue sa série et il prend une pause comme ça lui évite de se foirer tout de suite.
Ouais, il peut méditer du haut de sa colline. Mais ouais, alors c'est vrai que effectivement Monaco gagne pas, même perd contre Strasbourg, mais t'as la variable Sedoucy qui fait quand même beaucoup de mal à Monaco. De ce que j'ai aperçu, alors j'ai pas vu tout le match, ça me semble plus être un problème de confiance qu'un problème de système de jeu. Enfin après c'est difficile, c'est du Henry sur il a eu 2 journées d'entraînement je pense avant ce match-là. Mais disons, la manière dont Henry animait son équipe, etc., ça me semblait pas être totalement délirant. Je sens qu'il a des bonnes idées, mais il faut qu'elles soient suivies. Mais la manière dont les latéraux jouaient haut et les milieux bloqués, etc., enfin, c'était presque trop scolaire, si on peut utiliser ce mot qu'on n'avait pas encore utilisé ce jour dans le podcast. Mais n'empêche que je pense, je suis quand même plutôt confiant sur les capacités d'Henry à relancer ce groupe qui me semble. Alors, pour l'instant, tout tourne mal. C'est vrai que t'as vraiment l'impression que tout ce qui se passe.
Avec la blessure de Falcao en plus.
Voilà. Mais malgré tout, enfin, l'effectif est quand même pas si mauvais que certains peuvent le dire. Il y a quand même rien à faire aussi bas dans le classement. Et si, enfin, la Ligue des Champions, c'est quand même le meilleur moyen pour te relancer. Alors, pas pour la qualification, mais t'as quand même une place en Ligue Europa à aller chercher. J'imagine que ça peut être un objectif sympa. Alors, tu peux imaginer que ça serait aussi une distraction si jamais tu dois te battre pour le maintien. Mais dans mon idée, au printemps, tu seras quand même sorti de là et tu seras largement maintenu. Peut-être que tu n'auras pas suffisamment redressé la barre pour pouvoir avoir quelque chose à jouer. Et du coup, tu seras, je sais pas, 10-12e et tu seras bien content d'avoir la Ligue Europa pour mettre un peu de piment dans ta fin de saison, avoir des matchs intéressants à jouer en milieu de semaine. Et en face, Bruges. Alors, je ne vais pas m'inventer une vie, je ne connais pas spécialement le niveau de Bruges, je ne les ai pas vraiment vu jouer cette saison. Mais là, je vois leur dernier résultat. Il y a eu une défaite contre Deyns en Coupe de Belgique. Ensuite, bon, ils ont gagné le derby contre le Cercle de Bruges, justement le Monaco bis
C'est
d'Erwin
vrai.
Cardona. Et ensuite, il y a eu défaite contre l'Atlético, défaite contre le Standard, et là, nul contre Beveren ce week-end. Donc, du coup, Bruges n'étant pas dans une super forme, et l'effectif étant quand même meilleur du côté monégasque que brugeois, même avec les blessés, les absences côté monégasque, je vois une victoire de Monaco à 3-20.
En tout cas, ton chat n'a pas apprécié cet avis puisqu'il s'est barré. Je crois que j'ai cru l'entendre quitter la pièce. Ou
Oui,
se.
il a sauté sur la table alors qu'il était sur mes épaules.
D'accord, très bien, très beau moment. Je passe à mes paris qui évidemment ne fonctionneront pas parce que j'ai pas beaucoup de chance en ce moment. Le premier concerne le groupe de Lyon avec le match entre Hoffenheim et Lyon. Alors Hoffenheim, j'ai regardé les derniers résultats, ils sont capables aussi bien de gagner que de perdre contre un peu n'importe qui, mais surtout ils prennent et ils marquent des buts. Donc c'est pour ça que je pars sur un pari sur la capacité de Lyon à marquer dans les demi-temps. Le pari s'appelle quelle équipe va marquer dans les demi-temps et je mise sur Lyon à 2,90 pour tout le talent lyonnais offensif qu'on a vu. qu'on a vu malgré un match compliqué contre, c'était contre Reims, je crois, vendredi soir. J'ai oublié l'adversaire de Lyon, mais c'était un truc
Non,
dans le genre.
c'était pas Reims.
C'était, je sais plus qui c'était. C'est une équipe de milieu de tableau que Lyon a battu difficilement, mais finalement a battu de 90. Donc là, je mise là-dessus. Et puis mon
C'était
deuxième.
Nîmes.
Ah,
Du coup,
ben
c'est pas
Nîmes,
vraiment
tu
du
vois.
milieu de tableau, mais.
Oui, du fond de tableau, du coup, une des pires défenses de Ligue 1. Mais j'imagine que Osnabrück va un peu plus ouvrir le jeu. C'est une équipe qui aime construire, qui aime repartir de derrière, qui aime trouver des passes à l'intérieur du jeu. Donc ça devrait sourire à Lyon qui pourra construire ses attaques à partir de la récupération de balles. Et vu les profils qu'ils ont, ça peut fonctionner. Mon deuxième pari, c'est sur un match qui, à mon avis, sera beaucoup moins ouvert. C'est le choc entre Manchester United et la Juventus. Alors en plus, je viens de lire que la Juventus sera privée non seulement de Ronaldo parce qu'il est suspendu, mais de Mandzukic aussi parce qu'il est blessé. Raison de plus pour Allegri de ne pas ouvrir le jeu et de ne pas aborder le match avec un esprit très offensif, ce qui est de toute façon pas son habitude cette saison. Mourinho toujours des difficultés pour Manchester pour marquer des buts et maîtriser les matchs. Donc là, je pense que ça va un peu ressembler à ce qui s'est passé contre Valence avec deux équipes qui ferment plutôt qui ouvrent en début de match. Et c'est pour ça que je mise sur ça, le pari s'appelle le moment du premier but. Sur un but après la 30e minute, c'est à 1,95 sur le site de PMU.fr. Et je pense que ça peut fonctionner. Je crois que la dernière fois d'ailleurs que j'ai réussi un pari, c'était il y a 6 mois sur un pari un peu similaire. Donc on va repartir là-dessus. But après la 30e minute à 1,95. Pour ça, il faudrait qu'il n'y ait pas 0-0, ce qui est quand même assez probable sur cette rencontre.
Ce qui est bien au moins, c'est qu'on sera assez vite fixé.
Oui,
Il
voilà.
faudra une demi-heure, voire beaucoup moins, pour savoir si,
Bah, et puis
si
c'est
c'est
vrai que.
gagné ou si
Et
c'est
puis je
perdu.
crois que ce week-end j'ai assez vite perdu toute chance de passer mes paris. On m'a même fait remarquer sur Twitter. Mais je suis
C'est toujours
habitué.
sympa quand les gens dans les mentions viennent t'expliquer à
Oui.
quel point tu es mauvais au cas où tu l'avais raté.
C'est vrai que c'est difficile. Alors que personne vient dire à Flo qu'il est bon. Il est obligé de le tweeter pour que les gens le remarquent. C'est quand même triste. Mais voilà, si vous devez parier sur quelqu'un, pariez plutôt sur Christophe ou sur Florent, puisque je suis absolument abyssal en termes de paris. Merci à toi Christophe d'avoir été là.
Mais merci à toi, c'était un plaisir sans cesse renouvelé.
On n'en remercie pas Florent qui a décidé de partir pile au moment d'enregistrer le podcast. On ne l'oublie pas, cet enfoiré qui va encore passer les paris. On se retrouve jeudi pour parler de la Ligue des Champions. On parlera des matchs qui se sont déroulés, notamment d'un petit PSG Naples qui nous attend. Je crois qu'il y a un Barcelone Inter Milan aussi qui va être intéressant, Christophe, et le Real qui va jouer contre. Je joue une toute petite équipe,
Le Victoria Pilsen.
mais qui avec Lopetegui sur la sellette peut donner un match plutôt sympa. Ciao!
Cordialement.
Vous pensez avoir tout compris? C'est le moment de parier sur PMU.fr, le numéro 1 du pari.